Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech, assisté de Victoria, et par Daniel Amiche, assisté de Marie. Document d'archives du 10 décembre 1997, rediffusé dimanche 25 mars 2012 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Amis de la Résistance, bonsoir, mesdames et messieurs les collabos, profitez-en bien, ça durera moins longtemps que les contributions. C'est comme ça qu'il faut dire.
T'as qu'à croire, Grégoire.
On les aura. Écoutez, on va pas perdre de temps, on va commencer par une grande nouvelle. Une bonne nouvelle et ensuite une grande nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que Monsieur Seurault, vous savez, qui était persécuté par la police de la pensée, eh bien, vient d'être acquitté par la justice. Seurault, c'est cet enseignant dijonnais qui était poursuivi pour une histoire de cornebleu. Parce qu'il avait utilisé l'ordine, il avait sur, je crois que c'est sur son ordre, non, c'est pas ça, c'est dans le journal de son école.
De son école.
Il avait évoqué le déferlement des ordres M. Point de suspension.
Des ordres M. Point de suspension.
Ah oui,
voilà.
Parce que si je dis musulman, je me rends coupable d'un délit. Alors je dis M. Point de suspension. Je fais gaffe quand même. On n'est pas des bêtes. Eh bien, il va être acquitté par le tribunal correctionnel, Monsieur Seurault. Et toc, je vais vous dire que les dix crasseux, ils font une triste mine. Et les mrapistes. Alors, maintenant, la grande nouvelle, et ça, je vais laisser au général Dièvre, qui est parmi nous, qui est en face de moi, et qui joue ce soir le rôle de porte-parole de l'association SOS Tout Petit, mais ce soir seulement. Je vais lui demander d'annoncer cette nouvelle, puis après, on va en parler.
Bien. La nouvelle dont vous avez, je pense, la primeur, c'est que le docteur Dor est actuellement à la nonciature à Paris pour demander au Vatican l'asile politique. Cette nouvelle, je l'ai depuis le milieu de l'après-midi, et c'est la situation qui existait quand j'ai quitté mon domicile vers 17h15. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas comment a été reçue sa demande, mais je sais qu'il
a été. Alors, je peux vous aider à avoir un peu plus d'informations, parce que j'ai eu au téléphone Jeanne Smith, de Présent, qui accompagnait le docteur Dor dans cette entreprise. Donc le docteur Dor, comme vous le dites, s'est rendu à l'annonciature en début d'après-midi, pour demander officiellement l'asile politique, en disant qu'il se considérait comme réfugié politique, puisqu'il était persécuté en France pour ses opinions, son combat en faveur de la vie. Il a été reçu par plusieurs fonctionnaires ecclésiastiques, et pour finir par le nonce apostolique auprès de l'UNESCO, je crois. Et tous ces gens-là lui ont expliqué que ils étaient bien embêtés, parce que ils étaient tout cœur avec lui, bien entendu, mais que la situation de réfugié politique n'était pas applicable à son cas, puisque il est en infraction à l'égard d'une loi française. Et donc, quand on est en infraction, d'après C'est Monseigneur, quand on est en infraction à l'égard d'une loi du territoire de son pays, on ne peut pas être considéré comme un réfugié politique. Alors que moi, je croyais justement que c'était ça un peu la définition du réfugié politique. En tout cas, ils sont très enquiquinés. Ils lui ont dit tous qu'ils considéraient que son combat était très intéressant et qu'il avait tout leur appui moral, mais qu'ils ne pouvaient pas les garder. Ils pouvaient pas le garder parce que, d'autre part, a dit, puisque c'est Jeanne qui me racontait ça, donc je ne peux qu'y accorder un crédit absolu, a dit le nonce, la France ne reconnaît pas l'asile politique. Ce qui est quand même absolument superbe.
C'est une nouvelle.
Oui. Enfin, comme moi, il y a longtemps que je pense que tous ces curés-là nous prennent pour des pélicans. Je sais que mon ton peut-être un petit peu vigoureux parfois à l'égard des évêques, archevêques, cardinaux et autres monsignors me vaut les foudres de l'auditorat et du lectorat du Libre Journal. Mais là, quand même, je crois qu'on arrive au bout du bit, du bas du banc, et qu'on peut difficilement aller plus loin dans la canaillerie hypocrite et le grotesque. Alors, on en est là. Le problème, c'est que pour autant que je sache, au moment où j'ai eu John Smith au téléphone, le docteur Dor, qui a l'implacable force des faibles, était accroché à son fauteuil et était en train d'expliquer à ses monseigneurs que s'ils voulaient pas lui accorder l'asile politique au Vatican, ils allaient être obligés de le faire saisir par la police dans les locaux de l'Annonciature. Donc on est dans la situation à l'heure actuelle où il risque d'y avoir une complicité de fait entre l'Église conciliaire et la police de l'État avorteur socialo-chiraquien pour foutre en prison le docteur Dor pour occupation illégale de nonciature, de la même manière qu'il est poursuivi par le procureur Dumaretz. Alors là, je vous invite à retenir son nom à celui-là, parce que le jour du grand soir, il faudra quand même pas l'oublier, le procureur Dumaretz, qui a réclamé 8 mois de prison ferme contre le docteur Dor, en disant que son action, sa délinquance, était aussi coupable, voire plus, que la délinquance de certains jeunes des banlieues, à l'égard de laquelle on accuse faussement la justice française de faire preuve de laxisme. Et moi, je crois que quand on est dans un pays, dans un système de gouvernement et de pensée, où des diplomates du Vatican refusent leur aide à un militant de la vie, à un sauveteur d'enfants qui ne fait qu'exécuter les ordres du pape, hein, puisque le pape a dit très clairement qu'il fallait combattre l'avortement. Bien. Et dans un pays où les juges, ou plutôt les magistrats du parquet, assimilent le fait de dire son chapelet devant un hôpital au fait de balancer des pavés dans les autobus et d'attaquer les gens dans la rue, on peut quand même se demander si on n'est pas en train d'arriver au fond de l'inversion, c'est-à-dire au fond du système diabolique, puisque notre société est véritablement d'essence démoniaque maintenant. Je crois que c'est tout à fait clair. Et tous ces gens-là sont complices, c'est-à-dire les magistrats et les évêques. Autrement dit, les gens qui sont censés incarner le droit et la vérité se comportent en complices de la bête. Bon, ben, à mon avis, il faut s'en réjouir. Parce que les masques tombent, l'imposture est en train de s'évaporer, et on va savoir maintenant qui est qui, où est l'ennemi et comment il se présente. Et c'est pas parce que l'ennemi se déguise avec une soutane écarlate et se met un frisbee sur la tête qu'il devient immédiatement un ami. Moi, je suis désolé, quand je regarde Monseigneur Thomas et que je lis ses déclarations, hein? Pourquoi celui-là, vous dites?
Non, parce qu'il a ma faveur. Pousse. Ouais.
Voilà, vous avez raison, on arrête. Allez, donc. Tiens, on va faire une chose, après je vous redonne la parole, mon général, mais on va écouter un peu de musique, ça va nous calmer. Alors, bon, je sais pas pourquoi ça s'arrête comme ça, c'est du sabotage, camarade. C'est très mal d'avoir fait une chose pareille. Je voulais vous dire, c'est un très 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 bel enregistrement d'œuvre de Schumann. Et en l'occurrence, il s'agit d'une valse allemande, mais du carnaval Opus 9, puisque c'est un allemand. Et c'est interprété par une pianiste aussi talentueuse que belle, qui s'appelle Jacqueline Bourgès-Monoury, qui est un nom qu'on connaît déjà, mais pas pour le piano. Et là, Jacqueline Bourgès-Monoury, c'est une merveilleuse pianiste, et elle vient de publier ce CD, ce compact, ce disque ce compact, disque pardon, compact. Oh là 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 là. Ce disque compact, Carnaval et études symphoniques de Schumann, et c'est un joli numéro de virtuosité, il y a du sentiment, il y a, enfin c'est bien quoi, c'est beau, voilà. On essaiera d'en réécouter un petit bout tout à l'heure, peut-être, on verra, bon, si vous êtes sage.
Et... Juste avant d'annoncer que vous êtes sur Radio Courtoisie, voilà. Et que Serge Leveckage commence son discours.
Voilà. Et d'ailleurs, à propos de commencer, la petite brochure de présentation du disque compact de Jacqueline Bourgès-Monnery, qui est paru aux éditions Gallo, c'est un CD 928, Gallo comme Gallo, pas comme Gallo de cheval, mais comme Gallo breton. La première phrase, elle me paraît mériter d'être écrite en lettres de feu sur le mur du studio. Celui qui n'ose s'attaquer à ce qui est mauvais saura mal défendre ce qui est beau. C'est une phrase de monsieur Schumann quand il avait 23 ans. À l'époque, les gens de 23 ans disaient des choses comme ça. Maintenant, ils disent, le comme le. Bon, enfin, ouais. Voilà. Et puis après, ils font curé. Hein? Si, ils font curé. Vous voulez venir? Venez. Alors écoutez, venez à la messe à Saint-Vincent-de-Paul si vous voulez rigoler de temps en temps. Alors là, je veux dire, oh là 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 là. Enfin bref, on n'est pas là pour dire du mal. Parmi les invités de ce soir, ça serait une soirée extrêmement politiquement incorrecte parce que Alain Pascal, que vous connaissez, qui est l'auteur de La Trahison des Initiés et qui participe maintenant à mes émissions, vous commencez à bien le connaître, la semaine prochaine il sera plus là.
Mais oui, c'est la dernière de cette série.
C'est la dernière, il fait ses adieux à la scène.
C'est dommage parce que je bois vos paroles en direct. Et je dois dire que vraiment vous m'avez fait passer un trimestre extraordinaire, que votre émission est exceptionnelle. Oui, je devrais pas le dire parce que
heureusement.
Toutes les radios devraient programmer des émissions comme la vôtre, elles sauvent l'honneur du journalisme.
C'est gentil.
Mais
ça.
Pourquoi vous le virez?
Non, je ne dis pas, c'est lui qui
retourne. Je m'absente quelques mois de Paris.
Voilà. Je trouve que comme la saison devient un peu fraîche, il va descendre sur la Côte d'Azur. Il est pas fou, ce mec. Alors, il a invité donc Pascal Bernardin, qui est l'auteur d'un livre très politiquement incorrect, Machiavel pédagogue, et c'est de nature à rassurer les populations que Pascal Bernardin ait écrit ce livre, parce que c'est un ancien élève de l'école polytechnique, et ancien prof de maths en plus.
Alors, élève défroqué, élève de l'école polytechnique défroqué.
Oui, mais enfin, vous avez péché. C'est moins grave que l'ENA, mais c'est quand même pas terrible. Et puis ça rapporte moins que Ponts-et-Chaussées. Hein?
Ouais, ah oui, que le corps des Ponts-et-Chaussées.
Ah, ça, bon métier.
Politiquement incorrect aussi de parler du corps des Ponts-et-Chaussées.
Mais non, on n'en parlera pas d'ailleurs, je dis simplement ça. Alors, on parlera de Machiavel pédagogue. Mais avant, je voudrais revenir au général Dièvre, donc qui va nous expliquer ce qui va se passer maintenant. Enfin, la situation du docteur Dor, qu'il soit considéré finalement comme réfugié politique par l'État du Vatican, ou qu'il soit livré à la police avorteuse, à la police de l'État avorteur par les services du Vatican, de toute façon, il sera indisponible pendant un moment. Comment va se, comme on dit maintenant, gérer cette absence?
Oh bien, le docteur Dor, il est bien certain que compte tenu de toutes les décisions de justice qui sont prises à son encontre, vous savez qu'il a déjà fait 11 jours de prison.
Oui, et qu'en ce moment même, il est en prison.
Et non, pas encore, mais dans les jours qui viennent, il doit se présenter pour être incarcéré en semi-liberté à Villejuif pour un mois.
Ce qui explique qu'il se soit présenté réfugié à la nonciature.
Oui, et puis il y a eu aussi la condamnation d'hier. Enfin, pas la condamnation, le réquisitoire d'hier, 8 mois de prison ferme, plus...
Par le procureur,
comme vous dites, du Marais. J'assistais à l'audience et le procureur du Marais avait demandé au tribunal l'incarcération immédiate du docteur Dor. Il n'a pas été suivi. Et il a également demandé le retrait des sursis dont bénéficie le docteur Dor pour d'autres affaires. Ce qui fait que s'il était suivi, ce serait pas 8 mois de prison qu'il aurait à faire, mais 20 ou 30 mois de prison, étant donné qu'il a 11 affaires en cours ou déjà jugées.
Si vous me permettez, mon général, de faire une petite comparaison. Vous nous dites que là, le docteur Dor devrait passer donc pratiquement un an en prison.
Oui, peut-être plus.
Voire plus.
Si le réquisitoire était suivi.
Pour avoir participé à des opérations de terrorisme par la prière.
Voilà.
À 150 mètres des hôpitaux. Ouais. Je voudrais, pour donner une idée de la façon dont fonctionne la justice française, faire état d'un jugement qui a été, non, c'est pas un jugement, comme on dit, enfin, d'une condamnation qui a été portée il y a 2-3 jours contre une femme de 36 ans. Mettez les mains sur les oreilles des enfants. Une femme de 36 ans qui prostituait son petit garçon de 14 ans à un voisin pédophile de 56 ans. Depuis longtemps. Cette femme a été arrêtée, elle a été condamnée à 1 an de prison. Donc c'est moins grave dans le régime de l'État avorteur de prostituer son fils que de prier devant un hôpital. Quand je vous dis qu'on est au cœur de l'inversion démoniaque, vous voyez que je vous raconte pas de calembredaine. Voilà, donc je vous rends la parole, mon général.
Oui, oh ben je crois que j'ai à peu près tout dit, sinon que la prison qu'a faite ce mois-ci, enfin au mois de novembre, le docteur Dor était doublement illégal, puisque le préfet avait interdit la manifestation au cours de laquelle il a été arrêté, contrairement à une décision de justice qui, précisément, interdisait au préfet d'interdire, si j'ose dire, en disant que la liberté de manifestation est la règle absolue et qu'une contre-manifestation ne peut en aucun cas justifier une interdiction. Et le préfet est passé outre, a interdit la manifestation et la police a arrêté le docteur Dor pendant que 35 personnes autour de lui récitaient le chapelet sur un trottoir à 150 mètres de l'entrée de l'hôpital.
Alors, général Dièvre, je vais certainement blesser votre modestie naturelle, mais je suis quand même obligé d'en parler parce que les auditeurs sont fondés à se poser la question des raisons de votre présence ici, en dehors du fait de parler du sujet que vous évoquez. Ceux au moins qui vous connaissent pas, parce que beaucoup d'auditeurs vous connaissent puisque vous avez déjà participé à des émissions, notamment au Journal des Scouts, puisque vous êtes ancien commissaire général des Scouts d'Europe.
J'ai été commissaire général et président de l'association française. J'ai surtout été commissaire fédéral, c'est-à-dire responsable pour l'ensemble de l'Europe. Et j'ai exercé surtout mes talents dans les pays de l'Est pour relancer un scoutisme catholique à partir de 90.
Et accessoirement, je ne crois pas me tromper en me disant que vous êtes également un repris de justice.
Je suis un condamné de droit commun. À 6 mois de prison avec sursis et une lourde amende que je ne peux pas payer.
Oui. Non, moi non plus. Et aussi, j'ai des amendes que je ne peux pas payer. Donc là, comme je n'ai jamais vu qu'on tondait un œuf. Vous avez été arrêté devant Notre-Dame,
quoi, parce que j'ai été arrêté 2 fois cet an dernier, avec le docteur Dor, mais moi ils ne m'ont pas gardé, ils ont vérifié mon identité novembre.
Quelle tête a fait le policier qui a relevé votre identité?
Alors là, il n'a pas fait de tête particulière, mais je peux vous dire que la deuxième fois, c'était devant Notre-Dame, quand l'archiprêtre là, ou le recteur, je ne sais pas comment on l'appelle, de Notre-Dame, nous a fermé les grilles au nez, en nous laissant cueillir par la police. Nous avons été 97 personnes arrêtées. Et le policier qui a vérifié mon identité m'a simplement dit, mon général, c'est un combat qui vous honore. Et ça, je l'ai pris pour un compliment qui m'est allé droit au cœur.
Heureusement que personne ne l'a entendu dire ça, parce que sa carrière a été foutue.
Vous êtes un général bien connu des services de police, alors ce qui vous vaudra sûrement l'indulgence des tribunaux dans un temps futur.
Non, mais par ailleurs, je n'ai aucune agressivité contre la police. J'entends pouvoir mener le combat pour la vie.
Non, mais les policiers ne font strictement qu'exécuter les ordres de leur chef. Exactement comme en 42, 43.
Et généralement, les policiers exécutaient les ordres des chefs, d'ailleurs, à notre égard.
Et le procureur du Marais s'est fait exactement comme les magistrats de cette époque.
Lui, je veux qu'il en a rajouté.
Mais enfin, il applique les ordres de la chancellerie et du parquet. Et comme d'ailleurs, les magistrats de Vichy appliquaient les ordres de la chancellerie et du parquet. Les gendarmes aussi. Enfin, le système fonctionne bien. L'État, les députés votent des lois. Donc c'est le législatif.
Des lois qu'on leur prépare.
Des lois qu'on leur prépare bien dans entendu. Un endroit que vous connaissez.
Vous savez où, bien entendu.
Et ensuite, les magistrats, les policiers, les gendarmes, tout ça, appliquent ces lois. Enfin, on est dans un ordre, ce qu'on appelle, comment ça s'appelle déjà? l'ordre républicain et l'état de droit. L'état de droit, voilà.
Oui, mais donc, encore que ce soit pas toujours aussi net que ça, parce que moi, quand j'ai été jugé à Lyon, le procureur de la République a dit à la Cour, ces gens-là sont parfaitement honorables, il est reconnu par tous que l'embryon est de nature humaine, et par conséquent, vous devez tenir compte de la modification, et c'était en appel, je vous demande de renoncer aux peines de prison qui ont été prononcées en première instance. Sans quoi il n'a pas été suivi.
Ben oui,
mais enfin, il l'a dit.
Bien sûr.
Parce que la parole est libre pour un procureur.
Et la plume est serve.
Voilà.
Vous donnez l'orthographe du nom du procureur dont vous parlez.
Dumaret, c'est Dumaretes.
C'est un auditeur qui le demande.
Oui.
Et on peut lui écrire où, à votre avis?
Au tribunal de Versailles.
Au tribunal de Versailles.
On peut toujours lui faire connaître. On est dans un pays de liberté. Si on a des compliments particuliers à lui adresser, il ne faut pas le gêner. Je sais que parmi nos auditeurs, qui ne sont d'ailleurs pas adhérents, ceux-là, j'en suis certain, il y a beaucoup d'avortueurs ou de défenseurs de l'avorturie. Donc, si vous voulez écrire au procureur du Maretz, mes chers camarades, vous ne vous gênez pas. Je signale d'ailleurs que sur le Minitel, il y a un net assèchement des injures. Et ça m'ennuie beaucoup, vous en rapport aussi. Je vous rappelle que sur 3615 Libre Journal, vous pouvez m'injurier moyennant 2,23 francs la minute. Vous pouvez aussi d'ailleurs trouver plein de renseignements, comme vous pouvez lire les articles de Jean-Pierre Cohen, de Bernard Lugan, d'Henri de Fersan, de Michel Delière, d'Alain Pascal, de Montchanin, le journaliste masqué, le journaliste fantôme. Personne ne sait qui c'est, même pas
moi. Éventuellement Serge de Becquetch.
Et même Serge de Becquetch. Vous pouvez consulter l'agenda avec toutes les dédicaces, notamment, enfin toutes les dédicaces, tous les rendez-vous. Alors là, des rendez-vous, il y en a autant qu'un curé peut en bénir, surtout si c'est un curé conciliaire, parce qu'ils font ça vite. Vous pouvez avoir les références de mes invités, vous pouvez même publier des petites annonces, et je vous signale quand même que d'après France Télécom, il y a 17 millions d'utilisateurs du Minitel. 17 millions, hein, c'est presque autant que d'auditeurs de Radio Courtoisie. Et un peu plus que d'abonnés au Libre Journal. 3615 Libre Journal, je vous le dis. Dites-vous que quand vous consultez le Minitel 3615 Libre Journal, vous faites une bonne action. Même si c'est pour m'insulter. Mon général, est-ce que vous allez continuer le combat?
Alors, il est évident que le docteur Dor va être contraint de lever le pied, je dirais.
Mais pas avec la caisse.
De pas participer à toutes les activités, mais il est non moins certain que son combat continue, d'une manière ou d'une autre, que il ne m'appartient pas de préciser ici pour l'instant, mais ce combat va continuer, certainement.
Ben, s'il est retenu, s'il est retenu aux Espagnes, comme on disait dans le temps...
Il y en aura d'autres qui prendront la relève.
Voilà, c'est ça. Ce micro leur sera toujours ouvert.
Merci.
Est-ce qu'on peut avoir une adresse précise?
Oui, attendez, je voudrais quand même dire un mot, parce que il y a
des messages curieux.
Le docteur Dor n'a jamais empêché un seul avortement et tout. Alors, je voudrais dire simplement à ces gens-là que c'est pas la peine de dépenser des sous au téléphone, parce que c'est quelque chose de répugnant de penser ça. C'est totalement répugnant, et donc je n'en ferai pas état. C'est obscène. De dire des choses pareilles. Donc je ne ferai pas état de leurs messages, alors qu'ils s'économisent la peine de nous les envoyer. Hein. Voilà. Oui, quoi d'autre?
Il ferait mieux de saluer le courage du docteur.
Oui,
c'est qui est vraiment un homme admirable.
Ils sont en train de dire que comment il se met sous la protection du Vatican, mais s'il était vraiment chrétien, il irait jusqu'au bout. Alors là, j'avoue que j'ai le droit sur la tête.
Peu de gens s'engagent autant.
Je crois qu'on est au bout de ses idées. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des leçons à lui donner.
Oui, on demandait l'adresse où on pouvait une adresse précise pour pouvoir envoyer un soutien financier à SOS Tout Petit, n'est pas dans l'annuaire.
SOS Tout Petit, c'est 11 rue Tronchet. Alors l'arrondissement, enfin ça se trouve.
Rue Tronchet, c'est 11 rue Tronchet. Centre de Paris, ça doit être le 8e, non, je pense.
Je sais pas, j'ai pas sous les yeux l'arrondissement.
Ça fait rien de toute façon.
Voir si je le retrouve.
Voilà, mais mon général, merci. À bientôt, je pense que vous reviendrez nous voir pour nous donner des nouvelles du combat contre l'avortement. Et je signale aussi que c'est pas un sujet que je suis disposé à abandonner dans cette émission. Oui, ça me paraît absolument central. Donc on va pas laisser tomber. Alors, quelques informations maintenant. D'abord, on va répondre au courrier. On va faire état du courrier. Il y a un auditeur qui m'envoie une lettre qui est quand même assez extraordinaire. Pas sa lettre, mais c'est, qui me parle d'une histoire. Sa maman, cet homme-là, s'est fait agresser à Noisy-le-Sec. Et il a donc écrit au maire... Je prends la liberté de vous écrire pour vous faire part d'un fait divers qui est arrivé à ma mère samedi 25 octobre 97. Ma mère s'est fait agresser samedi matin à 11h15 à l'entrée de la première cage d'escalier de la résidence, se trouvant à la mairie, en se rendant face à la mairie, en se rendant chez ma sœur. Elle n'a pas été blessée. Dieu merci. L'agresseur, un Africain d'une vingtaine d'années, lui a dérobé son sac avec tout son contenu, argent, carte de crédit, etc., etc. La pauvre femme maintenant elle est terrorisée, etc. Alors ce monsieur écrit donc à la mairie pour dire est-ce que vous allez vous décider à faire quelque chose contre l'insécurité à Noisy-le-Sec. Et alors il reçoit une lettre du camarade Roland Pavot pour le camarade Jean-Louis Mons, conseiller général. Le camarade Roland Pavot étant premier maire adjoint chargé de la sécurité. Monsieur le maire m'a transmis votre courrier dans lequel vous exprimez légitimement votre colère après l'agression dont a été victime votre maire. Je crois d'ailleurs que l'origine de l'agresseur ne change rien au problème. C'est la première chose qui l'arrête, le gars, c'est tout de suite. Bon. Je veux tout d'abord vous assurer que nous sommes particulièrement attentifs aux questions qui touchent la sécurité, la tranquillité des habitants de notre ville. Cette préoccupation s'exprime notamment par des rencontres régulières avec le commissaire de police, rencontres au cours desquelles un point très précis est fait de ces problèmes. Vous voyez, quand même, ils agissent. Hein. On peut pas dire... Le gars, il va voir que c'est plus facile d'avoir le commissaire de police que d'aller voir les délinquants. Ça, c'est un dangereux. Cette préoccupation se traduit aussi par des rencontres au commissariat avec des délégations d'habitants de notre ville. Ils vont beaucoup voir le commissaire. Sachez qu'en particulier, nous sommes aussi attentifs aux difficultés rencontrées dans le secteur de la mairie et que nous avons demandé au commissaire de police d'exercer une dissuasion plus efficace des mauvais comportements. C'est joli, ça. Quand vous attaquez une vieille dame au rasoir pour lui piquer son sac... C'est un mauvais comportement.
Absolument. Alain. Je me doute bien. Le maire sera protégé, je pense, si le commissaire peut sortir du commissariat en ouvrant les barreaux, derrière lequel il est lui-même.
S'il arrive à sortir du commissariat sans se faire casser la figure. Oui, je tiens également à vous informer que nous avons pris la décision d'engager sur cette question une nouvelle démarche. Une nouvelle démarche permettant de mieux mobiliser l'ensemble des moyens. Moyens qui ne se limitent pas seulement à ceux dont dispose la police nationale. Cette nouvelle étape va se passer dans un premier temps et dans les mois qui viennent par une évaluation très précise de la situation d'insécurité à Noisy-le-Sec en ce qui concerne les actes mettant en cause la sécurité des biens et des personnes ou même plus simplement les mauvais comportements qualifiés aujourd'hui d'actes d'incivilité. Quand vous prenez un pavé en pleine poire, c'est « Enfin, monsieur, c'est un acte d'incivilité. »
Hein ? C'est très incivil.
Cette première étape est nécessaire pour définir au début du deuxième trimestre 98, donc on a le temps de revenir, un ensemble de premières mesures avec comme échéance la fin de l'année, ainsi que des mesures à plus long terme pour les 3 années qui viennent.
Ça, c'est un programme.
Ils n'hésitent pas à agir, les mecs, les cocos, là. Repoussant toute idéologie sécuritaire, ne consistant qu'à désigner telle ou telle catégorie de population, nous voulons que le droit des Noiséens et Noiséennes, ça, ce truc, ça m'énerve, à vivre tranquille et dans la sécurité soit intégralement respecté, car ce droit est constitutif de la liberté. C'est dans cet esprit que l'État doit assumer ses responsabilités. Notre municipalité entend prendre totalement les siennes. Dans les semaines qui viennent, des initiatives seront prises pour informer la population de la définition de ces mesures. Tels sont, monsieur, les éléments de réponse et d'information que je tenais à vous apporter. Vous en souhaitant bonne réception de la présence, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations des milliers, signée pour le maire Jean-Louis Mons, conseiller général, Roland Pavot, premier maire adjoint chargé de la sécurité. Voilà. Quand vous, votre grand-mère ou votre mère se fait attaquer au rasoir, il vous annonce qu'on va envisager, dans le début de la troisième mi-temps, de prendre des mesures qui sont applicables à la fin de la cinquième mi-temps, mais on a des initiatives.
C'est très rassurant. Ouais,
c'est rassurant.
Vraiment, je crois qu'il faut toujours voter pour les mêmes, parce que vraiment, ils sont efficaces.
Voter pour, ils sont bien, voilà. Et il y a un monsieur qui m'envoie un texte. Ministère de l'Hygiène, ministère de la Guerre, ministère de la Marine, jeune homme, songe à l'avenir, fonde une famille saine. C'est ta destinée naturelle et aussi ton devoir social. Tu perpétueras ainsi la belle et vigoureuse race française. L'homme saint, sobre et conscient de ses devoirs, aura une existence heureuse car il aura de beaux enfants qui, comme lui, seront des travailleurs productifs. L'homme malade, intempérant et ignorant de ses responsabilités, aura une existence misérable, rendra sa femme malade, aura des enfants tarés qui seront une charge pour leur famille et pour la société. Tout Français doit à la France, tout homme doit à l'humanité, de lutter contre, de toutes ses forces contre les maladies sociales et surtout contre l'alcoolisme, la tuberculose et la syphilis. C'était une page de livret militaire. C'est formidable. C'était la dernière page du livret militaire.
En quelle année ?
1928. C'est beau, non ? Hein ? Vous perpétuerez ainsi la belle et vigoureuse race française.
Je crois que ce serait condamné par la loi aujourd'hui.
Ah, ça, il y a des chances. Oui.
Il y a des chances. Oui.
Je vous signale, oui, aussi qu'il est évident que les prud'homales sont totalement truqués. Totalement. C'est un scandale invraisemblable. On peut même pas énumérer les manquements.
J'ai un message, quelqu'un me dit, je me suis rendu ce matin au bureau de vote pour les élections prud'homales à Neuilly. J'aurais souhaité voter pour les listes du Front, c'est-à-dire CFNT. Malheureusement, il n'y avait pas de bulletin correspondant, alors qu'on me l'avait adressé par courrier.
Oui, oui.
Que faut-il faire ?
Ben, il faut porter plainte. Il faut faire noter d'abord sur le cahier de suffrage l'absence des documents. Certaines enveloppes, il y avait des professions de foi, mais pas de bulletin de vote. Il y avait des bulletins d'autres, il y avait des bulletins de vote, pas de profession de foi. Il y a des enveloppes qui ne sont jamais arrivées, malgré des multiples réclamations. Enfin, c'est véritablement un scandale. C'est un truc de république bananière. Alors là, je crois que même dans le dernier pays
populaire,
c'est la même chose. Enfin,
citoyen.
Voilà. Je crois que dans le dernier pays sous-développé, on se permet pas des scandales pareils au moment des élections. Tout ça finira mal, vous savez. Tout ça finira très mal. D'ailleurs, tout finit mal en général. Il y a un truc qui est très très drôle aussi, c'est que l'annuaire des conseils régionaux d'Île-de-France vient d'être publié. Et alors, vous savez qu'il y a, vous savez pas, moi je le savais pas, mais je l'apprends, il y a 209 conseillers régionaux en Île-de-France. Or, l'annuaire n'en annonce que 208. Il en manque un. Savez-vous qui et pourquoi ? Allez, je vous le donne en 10.
Ça devrait être un proche du Front National.
Ah non, alors là tout faux.
Ah.
Eh ben celui qui manque, c'est le conseiller régional RPR Balladuro-Pasqualien Didier Schuller. Ah. Vous savez le voleur qui est parti avec la caisse.
Il est en vacances.
Oui, ça fait un moment qu'il est en vacances. Mais il n'a pas démissionné, donc il est toujours. Alors Pascal Michel Delmas, qui est un élu du Front National, qui est un type assez pointu, assez rigolo, a fait une intervention, un rappel au règlement à Michel Giraud. Il lui dit ou bien il s'agit d'une malencontreuse faute de frappe, ou bien d'une volonté de l'exécutif du groupe RPR de faire disparaître l'escroc des Hauts-de-Seine. Dans ce cas, vous devez nous dire pourquoi l'ensemble de nos collègues mis en examen n'ont pas eux aussi disparu de cet annuaire. Ça serait plus un annuaire, ça serait une feuille recto, il n'y aurait même pas de verso. Et le même, Pascal Michel Delmas, ajoute, à moins qu'il ne s'agisse d'un nouveau type de conseiller régional virtuel, siégeant dans une assemblée virtuelle, localisée sur Internet, puisque Schuller s'est perdu il y a quelques mois dans le triangle des Bahamas. Pourquoi, monsieur le Président, ne pas avoir indiqué son adresse aux Bahamas? Il paraît que Giraud n'a pas trouvé ça drôle du tout.
Mais il est toujours sur l'annuaire de la Grande Loge Nationale Française, je pense, où ils ne l'ont pas radié. De même quand on doit en faire partie quelques personnes mises en examen dans l'affaire des HLM de Paris.
Et alors, encore une petite information rigolote. Dans le rapport de la Cour des comptes sur Thomson Multimédia. Vous savez que Thomson Multimédia était dirigé par Monsieur Gomez, Alain Gomez, militant socialiste pur et dur. Et alors, on vient de découvrir que Monsieur Gomez, il avait été embauché à 2,2 millions par an.
Oui, mais alors les tarifs pour les gens de la trilatérale sont plus élevés que pour les francs-maçons de base.
Mais il a trouvé que c'est encore pas assez. Alors, c'est pas Gomez, c'est un autre, pardon.
Il est de la trilatérale, mais il y a peut-être d'autres.
Alors, là, c'est un Alain Presta. Il a été embauché à 2 millions 2, celui-là.
Je connais.
Et il recevra 7 millions 9 en 96. Ce qui fait une augmentation de 350%. Correct, non? 7 millions 9. Est-ce qu'on peut vivre avec 7 900 000 francs par an?
Quand on est journaliste sur Antenne 2, je crois.
Et alors, la Cour des comptes a découvert avec stupeur que Thomson Multimédia avait fait un déficit de 3 milliards.
C'est peu.
Bah, et quand on verse 7,9 millions à un directeur, on peut se permettre d'avoir un déficit de 3 milliards. C'est dérisoire, parce que...
Oui, 30 milliards ça fait, c'est pour le GAN, hein, 34 milliards pour le GAN, je ne sais plus.
Un pour 2000. Donc, un demi-millième du déficit est dû au salaire du directeur. Alors là, je peux vous dire, tout ça est ridicule. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Enfin, sauf pour le directeur en question, bien entendu. Qu'est-ce que tu veux dire, Mignonne ?
Que vous écoutez Radio Courtoisie, l'émission de Serge de Beketch.
C'est pour ça que vous venez m'interrompre.
Oui.
Monsieur Raffard de Brienne, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ben voilà, c'est Daniel Raffard de Brienne, écrivain, journaliste, syndonologue.
Ah oui, en particulier, là je reviens de Turin tout de suite.
Je viens de recevoir la revue internationale du linceul de Turin, principe et règle de l'expertise, conservation du linceul, le linceul de Turin et l'évangile de Saint-Jean. Bah, passionnant comme toujours, trop court comme toujours, mais c'est pas pour ça que vous êtes venu, mais on
non,
peut en dire,
vous parler de,
on
de
peut
cela.
En dire un mot quand même.
Oui, oui, ben, je viens de Turin parce que j'ai eu une réunion hier soir avec les organisateurs de l'ostension et du symposium de 1998. Ils veulent bien m'associer à leurs travaux. Et je reviendrai.
Ça peut difficilement faire autrement, faut dire.
Oui, enfin, je ne sais pas.
Non, enfin, c'est un peu comme si, enfin, je sais pas. C'est, vous pouvez pas être absent d'un débat ou d'un colloque sur le Saint-Jean.
Oui, enfin, je suis pas tellement italien.
L'homme qui a le plus publié, le plus étudié, le plus conférencé là-dessus.
Et je viendrai vous en parler prochainement parce que nous allons organiser un voyage à Turin du 10 au. Du 8 au 10 mai, c'était un des sujets que j'ai abordé hier, pour mettre ça au point. Ben, j'aimerais vous en parler.
D'accord,
il y a
toujours
des choses nouvelles à dire sur le Saint-Suaire.
Quand vous serez disposé à nous en parler, je voudrais dire quand même que moi je suis assez content parce que j'ai découvert en lisant votre dernière œuvre, donc la revue internationale du Saint-Suaire, enfin du linceul, qu'il y a un gars qui a réglé le problème là. Il a trouvé, lui, que... Je retrouve pas la page, que le Saint-Suaire a été fait à la peinture, au minium, pratiquement.
Oui, oui, hein. Bah, ça, c'est, oui, au vermillon, plus précisément. Oui, oui.
Au vermillon.
Il y a monsieur le professeur Brock à Nice qui dit ça, entre autres.
Brock.
Révérend père, j'ai oublié son nom de Toulouse également.
Oui.
Mal damé.
Et le gars a publié un livre qui s'appelle « Jugement dernier sur le Saint-Suaire ».
Ah oui, c'est encore un autre.
C'est Macron.
Oui.
Jugement dernier sur le Saint-Suaire. Ah, moi, je crois qu'il va avoir des soucis à se faire.
Oui, oui.
Enfin, voilà. Donc, si on veut recevoir cette revue, elle est vraiment bien faite. Hein. C'est la revue internationale du linceul de Turin et l'abonnement... vous savez pas tout ça, vous. Voilà, l'abonnement...
250 francs, non, c'est pas ça?
Je sais pas, hein, 200 francs.
200 francs, ah bon. Oui.
Abonnement simple, 200 francs. Abonnement compliqué, 300 francs.
Très bien.
C'est, l'adresse, c'est...
50 avenue des Ternes. Sielt, C-I-E-L-T, 50 avenue des Ternes, 75 017, Paris.
Et puis quand même, je vais le dire, bien que vous vouliez pas parler de ça, on va quand même en dire un mot. Pour Noël, si vous avez des petits-enfants, des petits-neveux, des petites-nièces... ou n'importe quoi, ou des enfants, ou des autres concierges à qui vous voulez faire un cadeau. Il y a un bouquin superbe, vraiment, hein, qui est très très bien pour les enfants. Vous trouvez aussi, hein,
ah, je Daniel. Suis tout à fait,
c'est remarquable.
Oui,
ça s'appelle Une merveilleuse aventure, le Saint-Suaire. Et c'est paru dans la collection Saint légendaire aux éditions Elor, 56 350, Saint-Vincent-sur-Oust.
Voilà, mais ça se trouve chez la Duquesne de Diffusion,
voilà,
quelques autres librairies.
Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies, et dans quelques mauvaises charcuteries.
Aussi.
Probablement, ou c'est des ordres. À la procure, ce qui est étonnant d'ailleurs.
Ah oui.
Enfin, on trouve quand même de bons livres encore à la procure.
Oui, il faut les chercher.
Donc, c'est pour les enfants à partir de 8 ans jusqu'à...
108,
enfin, ça dépend.
108, quoi.
Oui, de 8 à 88 ans.
Oui.
Mais c'est bien fait, c'est très très bien fait. C'est toutes les aventures qu'a connues le Saint-Suaire, les vols, comment il a été transporté par des chevaliers. Enfin, c'est bien, c'est un roman d'aventure.
Avec
super.
Beaucoup de dessins.
Bon, alors tout ça, vous en fichez, mais vous n'êtes... Voilà, on va parler de ce pourquoi vous êtes venu.
Oui, je suis venu pour annoncer, si ce n'est pas déjà fait, l'après-midi de vente et de dédicace de livres organisé par Renaissance catholique à Versailles. avec la participation d'au moins 80 écrivains, parmi lesquels je note Pascal Bernardin, mais je ne note pas Serge Beketch, ce qui
Pourquoi
me perdra
la personnalité.
Comment j'y suis pas
C'est
embêtant de ne pas savoir lire à votre âge, à mon avis.
C'est vrai ça.
Tiens, il serait temps de
lire ça. Je croyais que vous étiez puni parce que vous n'aviez pas écrit le deuxième volume.
Sans ça on perdait la moitié des clients, hein, c'était pas le...
Bien sûr. Adeline, Algou, Amio, Argouache, Barthes, Bedel, Beketch,
Bernard. Argouache, vous connaissez.
Est-ce que je dis Argouache? Oui.
Oui.
Bien sûr, t'es un curé encore.
Oui.
François Bernard, Bernardin, qui est ici présent. Berteret, qui a fait un livre magnifique sur Versailles, les jardins de Versailles. Alors là, les jardins Versailles. Même si vous voulez pas l'acheter, il faut venir pour le regarder, ce livre est très beau. Bonnet de Villers, Bouchard, Boucher, Bouclier, Brassier. Connu, ça, Brassier.
Oui, Anne.
Bien, Anne Brassier aussi. Yves Chiron, Couvert, De Robert, le père de Robert, qui a fait le bouquin sur le, je vais y arriver, moi, sur le père, aidez-moi un peu. La Padre Pio, voilà. Ah, non. Georges Dillinger, Bertrand Ninchin, François-Georges Dreyfus, Jean Dumont, André Figueras, Rémi Fontaine, Yvan Gobry, Richard Haddad, Jacques Hers, auteur de magnifiques bouquins sur le Moyen-Âge, pour en finir avec le Moyen-Âge. Roger Hollande sera là. Monique de Huertel. Mais qu'est-ce qu'elle a, c'est de la Victoria, m'énerver, le retour.
Je suis en train de me demander si vous croyez que vous avez les 3 heures aujourd'hui.
Non, je sais.
On va, j'ai dosé,
je suis obligé de finir la liste, parce qu'autrement...
C'est là qu'on se brouille avec tout le monde.
Oui. Olivier Kraft, Pierre Lassieur, Jacques Le Groignec, le général Le Groignec, Jean-Marie Le Ménet, Jean Madiran, de présent, Bernard Marchal, Jean-Robert Maréchal, le père Marziac, qui sera mon invité la semaine prochaine, Bruno Maigret, Louis Millet, Bernard Moinet, Bernard Molinier, Isabelle Moural, Marie-Antoinette Mulot, qui viendra avec ses herbes, Dominique Paladi, Luguette Pérol, qui a fait des merveilleux bouquins pour enfants, Michel de Poncin, Philippe Prévost, Jean Proudhon, Daniel Raffard de Brienne. Je me connaissais?
Ben c'est l'ami de Séraphin Grigneux.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est l'ami d'un collaborateur du Libre Journal. Jean Richard, Pierre Richard, décidément. Mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni Jean Richard ni Pierre Richard.
Non, exact.
Voilà. Jean Roland, Claude Rousseau, François Saint-Pierre, Christine Sauty-de-Chalon, Reynald Secher, Jean Sévilla, Michel Toda, Jacques Trémolet de Villers, qui vient de publier un très beau livre sur Berryer, qui a donné lieu à une émission éblouissante
comme
lundi soir. Non, pas la mienne.
Non, mais il y en a d'autres.
Une émission lundi soir, je ne sais pas qui faisait, mais bonne. Hein. Il y avait Vergès, Georges-Paul Wagner, Trémolet de Villers. Ah, ouais, c'était
remarquable.
Grand moment d'intelligence. Dominique Vénère et Vladimir Volkov.
Plus quelques petits points.
Voilà.
Il y a dans les petits points, il y a Alain Pascal dans les petits points.
Ah oui, c'est pour ça qu'il y a plus de 3 points.
C'est pour ça, il y a 3 points de suspension.
Alain Pascal sera là aussi avec son livre, et si vous voulez le rencontrer, ne vous gênez pas. Je signale au maire de jeune fille à marier qu'il est assez beau garçon.
Serge,
ouais, non,
vous allez me faire rougir.
Non, mais ça, c'est pour attirer le chaland.
Oui, mais j'y compte bien. Ça.
Voilà, alors, écoutez.
Alors oui, il faut tout de même signaler que ça se passe au Palais des Congrès de Versailles, de 14h à 18h. Alors c'est tout, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout près du château, quand on regarde le château.
C'est entre le château et un restaurant où on mange un gigot.
J'y pensais et je compte y aller.
Mais voilà.
Mais je vous voyais venir. Les armées ne peuvent se terminer que devant le gigot. Et alors, comme vous voyez, quelques prises de parole, ça c'est pour justifier le prix d'entrée. Vous comprenez qu'il est faible, mais enfin tout de même.
Oui, 20 francs.
Oui. Et en particulier, s'il n'est pas en prison...
Ça n'est pas ce que, excusez-moi de vous couper, je vois 20 francs par personne, 30 francs par famille. C'est-à-dire que si vous arrivez à 5, vous versez 20 francs par personne, plus 30 francs pour la famille.
Non, c'est 30 francs.
Ah bon, d'accord. 30 francs pour toute la famille.
Pour toute la famille.
Mais il faut avoir le livret de famille ou on peut venir avec...
Écoutez,
est-ce que c'est la famille... C'est avec un contrat d'union sociale ou... Non.
Vous savez, la famille française type, quoi. Un mâle et une femelle plus ou moins mariés, un enfant et un chien.
Oui, c'est ça. Non, ça, ceux-là, ils payent. On les laisse même pas entrer. C'est les gens qui ont des chiens, parce non, qui ont des enfants parce qu'ils peuvent pas avoir de chiens.
Alors vous noterez qu'il y a un invité d'honneur qui prendra la parole.
Oui.
Notre ami, docteur Xavier Dor.
S'il est encore parmi nous.
Mais s'il n'est pas là, il faut que les gens viennent.
J'ai un communiqué du docteur Dor à l'Annonciature. Je ne lis pas tout, mais la fin. Je proteste solennellement contre ces atteintes à la liberté d'expression. Je me trouve ici sur le territoire de celui qui ne cesse de défendre les innocents. Sa sainteté, le pape Jean-Paul II, et je demande respectueusement au nonce de transmettre ma demande d'asile politique au Vatican. Je ne sortirai de la nonciature pour me livrer à la justice de mon pays que sur ordre écrite de notre pape. Que Dieu vienne en aide à une France dominée par le subjectivisme qui ose tuer ses enfants, qui l'inspire l'Église.
Il nous fait une petite fixation sur le subjectivisme, le docteur Dor est fort.
C'est un communiqué récent.
Oui, on vient de le recevoir.
Il date
de quelques
minutes. Mais il est, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire, cet homme-là.
Il faudrait que j'ai une copie pour dimanche, et puis également pour envoyer à correspondance romaine, c'est une agence de correspondance.
Je pense que...
Une presse romaine qui se fera... J'ai un plaisir de faire savoir dans tous les pays.
Je pense que les bénévoles de Radio Courtoisie accepteront de vous faire une photocopie, voilà. Moyennant un dédommagement modeste. Merci Daniel de votre patience, parce que je vous taquine, mais vous savez qu'on vous aime bien et qu'on vous on a pour vous le non pas du respect mais de la vénération.
C'est trop.
Voilà. Et ben maintenant, puisque Pascal Bernardin est là, vous pourriez peut-être l'opérer, mon cher Alain Pascal, parce que c'est vous, après tout, qui avez eu l'idée de l'inviter.
C'est votre émission. Vous avez le droit de lui poser des questions, Serge. Mais je vous ai demandé de faire venir Pascal Bernardin parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Machiavel pédagogue. Où est assez important. Le ministère de la réforme psychologique. Et ce livre, il date d'il y a 2 ans. Mais il est toujours d'actualité, je dirais même qu'il est plus d'actualité que jamais, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il traite de la crise de l'école. Donc la crise de l'école, c'est un sujet vaste et qui malheureusement n'est pas prêt d'être clos. Et ensuite, parce que dans ce livre, vous avez annoncé un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui celles que prennent les nouveaux ministres. Alors, tout d'abord, dans ce livre, vous faites un résumé des techniques des manipulations psychologiques, de toutes les techniques qui ont pu être mises au point dans ce siècle. Oui. Ça arrive, Serge.
Bon, ça va.
Et surtout de leur application à l'école, c'est-à-dire que les techniques des services secrets et qui ont été expérimentées au cours des divers conflits sont aujourd'hui en application dans les écoles françaises particulièrement, et je vais vous demander si l'origine des consignes qui sont données sont françaises ou si elles ne le sont pas.
Oui, donc les techniques de manipulation psychologique ont été étudiées depuis très longtemps, mais surtout dans l'ancienne URSS, à l'époque, enfin un petit peu avant, les procès de Moscou. Et on en a vu l'application lors des procès de Moscou, quand des suspects ou des futurs condamnés sont venus pour faire des dépositions en opposition complète avec ce qu'ils avaient toujours soutenu et avec le combat qu'ils avaient toujours mené. Donc on voit l'une des premières sources qui est les travaux menés par les psychologues soviétiques. Il y a une autre source qui sont les travaux menés par les psychologues américains, en particulier toutes les écoles behavioristes et... comportementalistes, donc qui ont suivi les travaux de Skinner. Ce sont des gens qui ont mis au point des techniques, c'est-à-dire peu importe finalement quelle est la théorie sous-jacente... et quelle est la conception de l'homme sur laquelle ces gens-là sont appuyés, ils ont mis au point un certain nombre de techniques qui fonctionnent, qui donnent des résultats. Alors ça ne veut pas dire, bien entendu, que je sois d'accord avec leur philosophie, mais leur résultat existe et marche en tout cas sur un nombre important de personnes. Donc on voit 2 sources qui ont convergé, à savoir donc les soviétiques et les écoles de psychologie américaines. En particulier donc le behaviorisme de Skinner. Alors bon, on pourra me faire remarquer que Skinner était en fait un révolutionnaire et que tout ça finalement provient des révolutionnaires, bien sûr, alors c'est la pure vérité. Mais ce qui est quand même important, c'est de voir que ces écoles ont eu une influence même aux États-Unis et que donc par ce biais elles sont répandues sur l'ensemble du monde occidental. Et alors,
je vous coupe un instant parce que c'est curieux, ça me rappelle un papier que vous avez fait dans le Libre Journal à propos de... Enfin qu'on a fait ensemble d'ailleurs... À propos de
Marcuse.
De Marcuse. Or, Marcuse était un ancien officier des services spéciaux américains.
Absolument.
Qui avait acquis son expérience dans la section manipulation et manipulation essentiellement, qui avait appris les techniques de manipulation, de lavage de cerveau et de bourrage de crâne.
Oui.
En
URSS, dans l'université Patrick Lumumba, il y avait une section qui était enfin qui était chargé de la formation des gourous. Autrement dit, on peut soupçonner, enfin on a tous les éléments pour le penser, qu'un certain nombre de des gourous, des sectes qui sévissent à l'heure actuelle en Occident, eh bien ont été formés dans l'ancienne URSS.
On le sait de façon absolument certaine
oui,
pour la secte
du Temple solaire,
du Temple solaire, dont les deux responsables étaient des agents soviétiques répertoriés, connus, dont un s'était introduit dans tous les milieux de l'extrême gauche.
Il y en a un qui s'appelle Journet, sauf erreur de ma part, et qui était membre du Parti communiste wallon. Et franc-maçon.
Parce que communiste,
il faut le dire.
Communiste belge, ça c'était trois.
Il était également franc-maçon.
Pécamineux.
Bien sûr.
Et franc-maçon.
Bien sûr.
Et non, le reste, non.
Et il n'était pas du Bnaibrit, contrairement à Marcus.
Oui, et le consul général de Marseille, enfin, dans un temps passé, a rendu visite à une époque, donc, dans une des nombreuses sectes qui fleurissent du côté de Marseille. Donc, donnant un élément supplémentaire un soupçon supplémentaire. Donc voilà quelles sont les filiations. Bon, on pourrait remonter bien sûr beaucoup plus loin. On pourrait remonter à Jean-Jacques Rousseau, à Platon, etc. Oui. Mais pour en rester à l'histoire contemporaine, donc on voit cette convergence entre les soviétiques et les américains. Et cette convergence, on la retrouve de nos jours. C'est ça l'un des points très intéressants sur lesquels on aura l'occasion de revenir. C'est qu'en fait, on voit par ce biais que la révolution, avec un grand R, donc dont la révolution soviétique n'a été qu'un des aspects, eh bien cette révolution se prolonge suite à ses travaux. Autrement dit, les révolutionnaires ont trouvé des véhicules et des techniques qui leur permettent, malgré leur disparition apparente, de prolonger leur œuvre subversive. Et ça, c'est, je crois, un point très important.
Ces techniques ont atteint l'école, n'est-ce pas ? Et il y en a une, moi, qui m'a beaucoup retenu, c'est celle qui touche à l'émotion des enfants. C'est-à-dire qu'on cherche à faire réagir les enfants, non pas d'une façon rationnelle, mais d'une façon irrationnelle, et à leur faire un enseignement que vous appelez non cognitif, pardon, parce qu'il y a quelques termes dans votre livre, évidemment, qui ne sont pas dus à vous, mais qui sont dus aux fonctionnaires, notamment des organismes internationaux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enseignement non cognitif, n'est-ce pas ? Parce que on pourrait croire que l'école, celle qu'a dû connaître Victoria, apprenait à lire et à écrire aux enfants. Or, aujourd'hui, on veut justement ne pas leur apprendre quelque chose. Alors, pourquoi ?
Alors bon, il y a plusieurs questions. Je crois que il faut peut-être d'abord insister sur le rôle des émotions, parce que souvent de nombreuses personnes sont amenées à négliger le rôle des émotions. Alors les émotions ont un rôle très important. Il y a un grand nombre de maladies psychologiques sont en fait des maladies des émotions. En particulier les troubles de l'humeur on peut les ramener, peut-être un peu abusivement, mais on peut les ramener à des troubles de l'émotion, à un mauvais contrôle des émotions. Alors, très souvent, les émotions sont premières dans le comportement des gens et le raisonnement n'est finalement que la rationalisation des émotions. Donc, en manipulant les émotions, on finit par manipuler les raisonnements que les gens tiennent pour justifier leurs comportements qui ont été simplement provoqués par leurs émotions. Donc, manipuler les émotions, c'est en fait aller très très profondément dans la psychologie et modifier très profondément tout ce qui est au-dessus, à savoir donc les comportements et les raisonnements, la conception du monde, etc.
Il y a en ce moment à la télévision une campagne qui correspond exactement à ça et qui est assez étonnante et qui mérite d'être observée avec beaucoup d'attention. C'est la campagne contre les mines antipersonnelles, car il s'agit exclusivement de provoquer une émotion très violente par des images extrêmement dures chez le spectateur pour l'engager à soutenir une opération qui est à l'évidence une opération bidon. C'est-à-dire que on fournit aucune information. On ne dit pas il doit pas y avoir sur Terre 12 000 sociétés qui fabriquent des mines antipersonnelles. Il doit y en avoir, mettons, une dizaine. Donc ça serait extrêmement simple de dire voilà qui sont ces gens. Voilà qui appartiennent ces sociétés, voilà qui sont leurs clients, voilà qui sont les gens qui posent les mines antipersonnelles, et voilà, il faut frapper cette bête-là au cœur. Hein. Or, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On nous montre des images d'enfants éventrés, de jeunes gens aux jambes coupées, etc. Et on dit il faut lutter contre les mines antipersonnelles, ce qui est à peu près comme lutter contre les avalanches ou contre le froid en hiver. On peut pas lutter contre ça puisque c'est une situation qui échappe à notre contrôle. Et là, il s'agit d'une manipulation psychologique, une manipulation des émotions. Or, la question qui se pose à travers ça, c'est que comme il est évidemment, cette campagne n'a rien à voir en réalité avec son objectif affiché, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'on peut continuer à diffuser ces films pendant des années, ça changera rien au fait qu'il y a des millions de bombes antipersonnelles dans le monde entier et qu'il faudra des dizaines d'années pour les déminer. Il faut quand même donc en conclure que ce genre d'opération, ce genre de manipulation, vise à d'autres objectifs, vise à habituer les gens à certains comportements, à certaines réactions, et on voit ça constamment. C'est-à-dire, il y a des opérations qui ne s'expliquent pas autrement que par la nécessité de provoquer des grands épanchements collectifs. Je pense notamment au Téléthon, qui, par rapport aux frics rapportés, c'est dérisoire. Oui. On a 20, donc plus de 24 heures, 36 heures d'occupation des antennes, avec pareil un pathos invraisemblable, des propos hallucinants. On a vu Robert Hossein, qui est un brave type par ailleurs, supplier les auteurs d'un hold-up de donner au Téléthon une partie de leur butin, enfin des trucs de dément. On est en dehors de la raison, on est dans l'irrationnel total, on est dans la confusion, c'est démoniaque encore une fois ce genre de comportement. On se dit, ça obéit forcément à quelque chose.
Oui, le Téléthon, bon, le budget les sommes rapportées sont un peu de l'ordre de 400 millions. Le scandale du GAN, c'est 40 milliards, c'est-à-dire 100 fois plus. Le scandale du Crédit Lyonnais, selon les estimations, c'est 120-200 milliards, c'est-à-dire à peu près 500 fois plus. Voilà. Bon, donc on mesure que l'affaire du Téléthon est en fait une goutte d'eau dans l'océan des sommes gérées par l'État. Alors effectivement, quelles sont les raisons de toutes ces grands mouvements médiatiques? Eh bien, je crois qu'il y a en particulier la volonté de recréer un lien social et un lien émotif qui est un lien donc au niveau des émotions qui est en train de disparaître dans nos sociétés et qui est très important pour que les individus, les citoyens, pour en parler ainsi, aient le sentiment d'appartenir à une société et pas de simplement être des consommateurs, des producteurs. Donc, je crois que c'est l'un des éléments fondamentaux. Alors, je ne suis pas d'ailleurs du tout a priori opposé à cette démarche en tant que telle. Je suis bien plus opposé à cette démarche parce qu'elle s'inscrit dans un cadre qui est celui du mondialisme, qui est celui du contrôle complet des individus par l'État et qui est celui en fait d'une nouvelle forme de totalitarisme. Et c'est dans ce cadre-là simplement que l'on peut reprocher cette manipulation des émotions, ce contrôle et cette espèce de stéréotypage des émotions donc que l'on voit sur l'ensemble de la planète.
Réhabiliter l'émotionnel n'est pas condamnable en soi-même. Voilà. Par contre, l'utiliser pour créer des réflexes et des réflexes conditionnés, notamment de réaction à certains mots politiques, puisque c'est bien cela dont il s'agit. Et là où votre ouvrage est essentiel, c'est qu'il apporte la démonstration avec les textes notamment des organismes internationaux, que les nouvelles techniques de psychologie sont appliquées à l'école pour que les enfants se modifient, c'est-à-dire que les enfants soient modifiés pour renoncer à une ancienne civilisation et pour en créer une nouvelle. Alors là, ça commence à être très intéressant, et on s'aperçoit que les réformes, qu'elles aient été menées par Monsieur Lang ou par Monsieur Bérou, et je le suppose, vous nous le confirmerez, par Monsieur Allègre, sont exactement des obéissances aux diktats des organismes internationaux. C'est-à-dire que Monsieur Lang, Monsieur Bérou et Monsieur Allègre mènent la même politique de façon à ce que les enfants aient un esprit plus social. Le mot socialiser l'esprit est employé. On renonce à l'esprit sur le plan individuel et on veut à tout prix insérer les enfants dans une nouvelle communauté. C'est bien cela.
Absolument. Alors, vous parliez de nouvelles civilisations, car effectivement, tel est l'objectif qui fut rappelé il y a encore quelques jours dans Le Monde, au sujet des déclarations du vice-président américain Al Gore, qui a déclaré à peu près, la citation est approximative, que les préoccupations écologiques devaient devenir l'axe d'une nouvelle civilisation. Donc, on parle véritablement d'une nouvelle civilisation. Et pour véhiculer cette nouvelle civilisation, pour que les nouvelles générations soient prêtes à l'accepter, eh bien, le système éducatif constitue le véhicule privilégié. Et c'est en ce sens qu'effectivement, la politique menée par M. Lang, ou celle menée par M. Bayrou, puis celle maintenant menée par M. Allègre, sont finalement toutes les mêmes. Et comme je le cite dans mon ouvrage, M. Bayrou a reçu les félicitations de M. Lang, et je crois que M. Allègre recevra celles de M. Bayrou prochainement.
Oui, mais c'est la famille tuyau de poil, là. On connaît leur musique. Ce qui est quand même prodigieux dans ce système, c'est que, je pense à ça à l'instant, mais quand ils sont pas arrivés à tuer la chair avec l'avortement, ils tuent l'esprit avec leur désenseignement pourri. Qu'est-ce que c'est que cet enragement?
Eh bien, on sait bien que l'adversaire est menteur et homicide depuis le commencement, voilà. Et quand il n'a pas réussi à tuer la chair.
Quand les enfants sortent de l'école, ils sont prêts pour les disques, pour la musique, si on peut appeler ça de la musique.
Même avant.
La drogue est déjà à l'école.
Même avant, parce que la drogue est déjà à l'école. Quant au disque, toute forme de disque, ça fait partie de l'enseignement musical ou de l'enseignement d'éveil, enfin, etc. Donc l'école a quand même beaucoup changé. Et je crois que les jeunes n'attendent pas la sortie.
À propos de musique, je lisais là un extrait d'interview de Patrick Dupont. Je ne sais pas si vous voyez qui je veux dire. Patrick Dupont, c'est un monsieur qui danse, c'est un joueur sympathique. Il a dit « Le hip-hop fera son entrée à l'opéra ». Donc on en est là. Il a dit d'ailleurs avant Le Pen, c'est affreux, c'est bon. Parce que ça, obligé maintenant. Toute interview passe par le truc. Le Pen, c'est affreux. Bon. Et après, il a expliqué que vraiment, le hip-hop allait faire son entrée à l'opéra. Alors, il paraît que moi, personnellement, je connais rien à la danse. Ça s'explique assez bien quand on me voit. Mais dommage, c'est un des plus grands danseurs du monde. Et là, on est encore une fois dans cette problématique, comme on dit maintenant, d'un garçon qui a travaillé 35 ans pour arriver à être au sommet de son art, et quand il est au sommet de cet art et qu'il incarne donc l'aboutissement d'une civilisation, de 2000 ans de civilisation, hein, dans l'art chorégraphique, eh bien, il a rien de plus pressé que de proclamer que les gesticulations épileptiques d'une bande de tarés méritent de remplacer cet art qui est l'héritier de 2000 ans de tradition. C'est effrayant.
Les forces subversives qui sont derrière, enfin, qui agissent contre lui et derrière lui, l'obligent à un tel comportement. Et, ouais. C'est malheureusement un petit peu la même constatation que l'on fait dans le domaine éducatif.
Ouais. Mais là, encore une fois, c'est l'inversion.
C'est l'inversion complète.
Dans tous les arts, la beauté est transformée en laideur. On peut le constater, que ce soit en peinture, en danse, en musique. C'est triste. Oui, alors ce pourquoi aussi je voulais vous interviewer, c'est que vous avez annoncé il y a 2 ans que les autorités, donc supérieures, reprochaient un déficit démocratique, n'est-ce pas, à l'école, et qu'il fallait le compenser par une nouvelle forme d'éducation civique. Alors, cela, vous l'avez annoncé, et c'est le programme d'aujourd'hui.
Oui, c'était déjà le programme de M. Bayrou, puisqu'il a écrit un ouvrage intitulé « La décennie des malappris », donc avec les deux sens du mot « malappris ». Et l'un des thèmes majeurs était que l'école devait véhiculer, finalement, une formation de l'individu qui dépasse le simple enseignement, mais qui inclut également ce qu'on appelle maintenant le savoir-être, si vous me permettez cette locution. Donc, le savoir-être, c'est-à-dire ce qu'on appelait plus simplement l'éducation civique, mais maintenant l'éducation civique, donc, a été étendue. Et ce qu'on appelle éducation civique maintenant, on pourrait peut-être l'appeler plus simplement, nous, propagande socialo-subversive, ou propagande maçonnique, puisqu'il y a une grande part de propagande maçonnique là-dedans. Donc voilà quel est fondamentalement le sens de cette éducation civique. Alors, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne la nouvelle civilisation, cette éducation civique doit également être le véhicule de la nouvelle civilisation. Parce qu'il y a un projet très cohérent qui d'ailleurs, encore une fois, est public, parce que tous ces projets sont publics, un projet des institutions internationales, donc qui gravite autour de l'ONU, de créer une nouvelle civilisation. Et donc, je disais que l'éducation doit être le véhicule de cette nouvelle civilisation, mais plus particulièrement, bien sûr, l'éducation civique. Et telle est l'une des raisons majeures pour lesquelles on est en train de réinstaurer une éducation civique en France et dans les autres pays du monde.
Et la nouvelle civilisation est écologique ? Bien entendu, on va apprendre aux enfants à voter écologique.
Oui, la nouvelle civilisation est écologique. Disons que l'écologie est une composante majeure, peut-être une des composantes fondamentales de la nouvelle civilisation, mais elle n'est pas simplement écologique. Et là, je crois qu'il faut, peut-être quand même nuancer un petit peu le propos. Par exemple, la nouvelle civilisation sera, sous certains aspects, une civilisation de l'amour. De l'amour, mais pas de la charité, c'est-à-dire de l'amour naturel du prochain, pas de l'amour surnaturel du prochain. Ce qui ne voudra pas
naturel,
dire...
Naturel, à mon avis, naturel n'est pas le mot bien choisi. Je crois
que... Oui, naturel ou contre nature.
Anti-naturel, plutôt.
Mais ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, l'avortement ne sera pas destiné à se développer.
Parce que l'amour n'est pas réservé à tous, notamment aux enfants à naître ou à ceux qui ne pensent pas comme les conformistes.
Voilà, ou à ceux qui n'ont pas qui ne répondent pas au profil psychologique ou au profil physique ou au profil idéologique, enfin qui ne répondent pas à la norme définie bien entendu par les têtes pensantes.
Et on voudrait, je pense, que cette civilisation soit uniforme, n'est-ce pas, et qu'elle arrive à transformer les mentalités. Alors moi, ce qui m'a aussi impressionné dans votre livre, c'est que vous parlez de spiritualité globale. On n'a plus aujourd'hui d'esprit considéré pour un individu, mais pour l'ensemble des individus.
Oui, alors, enfin, là vous faites plutôt état des discussions que nous avons eues en privé. Je ne parle pas de spiritualité globale dans cet ouvrage. Ce sera l'un des thèmes de mon prochain travail, du travail qui est en cours. Alors, il y a effectivement, là encore, une volonté délibérée et explicite et écrite, enfin, tout au moins des déclarations, comme celle de Boutros Ghali, qui a déclaré récemment qu'il fallait créer une spiritualité globale. Donc,
c'est, encore une fois, là, c'est extraordinaire, parce que il y a 30 ans, dans sa lettre aux amis, l'abbé de Nantes avait prophétisé, il n'y a pas d'autre mot, l'irruption de ce qu'il appelait le Masdu, le mouvement d'animation spirituelle
de la démocratie,
universelle, et c'est exactement ça. On y est en plein. Donc.
Absolument, et les choses sont en train de se concrétiser, puisque à l'heure actuelle, aux États-Unis, on est en train de mettre en place une sorte d'organisation des religions unies, qui sera parallèle à l'ONU, puisque l'ONU ne veut pas prendre des responsabilités directes dans le domaine religieux, qui bien évidemment est un domaine beaucoup trop dangereux. Donc on est en train de mettre en place cette organisation des religions unies, ce qui se fait donc sous la houlette de diverses sectes, donc manipulées par qui on a dit précédemment. Sous la houlette aussi d'innombrables églises de toute tendance, bon, que je ne citerai pas parce que c'est pas nécessaire, mais on peut dire que la seule organisation d'importance qui n'est pas représentée, ou tout au moins pas encore, ou tout au moins pas à ma connaissance, c'est l'Église catholique. Bon, pour combien de temps, je ne sais pas. On verra bien.
Si le catholicisme reste catholique, ce que nous souhaitons, mais ce qui n'est pas encore acquis, puisqu'on est en train de tenter de le dénaturer, il n'aura pas sa place dans cette nouvelle civilisation, bien entendu.
Contre l'Église, mais contre l'Église avec un grand E.
Oui.
Contre l'administration d'Église, il y a longtemps que la chose s'est faite.
L'espoir n'est pas perdu quant à l'Église elle-même.
Ben non, il ne faut pas. L'espérance, c'est un péché, ça.
C'est l'espérance.
Oh, c'est sûr, là.
Non, oui, c'est tout. Je voulais attirer, j'ai trouvé ça extraordinaire, attirer l'attention des parents d'élèves, en premier lieu, sur ce que l'on enseigne à leurs enfants, et c'est-à-dire sur ce qu'on ne leur enseigne plus et sur la façon dont on veut les faire réagir.
Oui. Le bouquin, pour ça, est très
documenté.
Je l'ai pas lu, mais je lis la table des matières. On voit qu'il aborde toutes les facettes de ce sujet. Mais un auditeur téléphone en disant j'ai acheté ce livre, Machiavel Pédagogue, aux éditions de Chiré. Il ajoute un peu de publicité, ne peut pas faire de mal. Il m'a troublé. Et il dit comment croire en effet que les futurs enseignants de l'éducation nationale soient tous des manipulés? afin de manipuler eux-mêmes les enfants dans un but assez bizarre, mondialiste sans certainement. Il y a pourtant depuis de nombreuses années plusieurs ministres qui se sont succédés au poste de l'éducation nationale, et ce plan bizarre serait passé au travers. C'est-à-dire que là, on voit bien comment le rationalisme, enfin la raison, se regimbe contre cette hypothèse.
Alors, ça, c'est une critique qui est tout à fait profonde, tout à fait fondée, mais j'ai envie de répondre que c'est une critique, c'est le premier obstacle contre lequel les révolutionnaires se heurtent. Il est bien entendu que les révolutionnaires sont fondamentalement, et dans tous les domaines, toujours une minorité. Que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine religieux, dans le domaine pédagogique, dans le domaine politique, les vrais croyants révolutionnaires, les vrais révolutionnaires sont extrêmement minoritaires. Donc le problème qui est le leur, c'est de réussir à entraîner toute la majorité, et en général à l'entraîner contre son gré, ou tout au moins à l'entraîner contre sa conscience, c'est-à-dire sans que la majorité ait conscience d'être entraînée dans une direction qui est opposée à ses volontés. Alors là, ce sont tous les travaux finalement de psychologie sociale, tous les travaux concernant la manipulation, concernant le contrôle. Il faudrait, je ne l'ai pas fait dans mon ouvrage, il faudrait parler de tout ce que la théorie des systèmes et tout ce que l'automatique a pu, donc l'automatique qui est finalement le contrôle des systèmes mécaniques, a pu apporter à la science politique pour montrer qu'en fait ces problèmes ont réussi à être résolus. Alors la théorie des systèmes explique finalement comment des sursystèmes, c'est-à-dire des tout petits ensembles de personnes ou de tout petits systèmes peuvent en contrôler des normes.
Il y a un exemple de manipulation, pas un exemple, une belle illustration qui était donnée dans les tests que faisaient passer les professeurs de l'Institut Dzerzhinsky à Moscou avant de recevoir des étudiants qui allaient devenir donc des agents du KGB et qui allaient devenir des manipulateurs. Et parmi ces tests, on demandait aux étudiants d'indiquer un moyen de faire manger du poivre rouge à un chat. Alors, les étudiants devaient trouver la solution pour faire manger du poivre rouge à un chat. Il y en a une seule. Et ceux qui trouvaient avaient donc passé l'épreuve avec succès. Alors il y en avait qui disaient il suffit de le mettre dans une boulette de pain, mais le chat ne mange pas parce qu'il la sent à travers le pain. Il y en a d'autres qui disaient il faut prendre le chat et lui injecter de force dans l'arrière-gorge, ou mélanger à du lait, enfin tout le monde cherchait. Bon, la seule solution, c'était de mettre du poivre rouge sur le derrière du chat. Et ça le brûle tellement qu'il se lèche. Et en se léchant, il mange du poivre rouge. Voilà. Ça, c'est la technique de manipulation utilisée par tous les manipulateurs depuis toujours. Parce qu'on se demande pourquoi la droite française, enfin droite, vous mettez des guillemets, pourquoi la droite française se comporte de telle façon et pourquoi elle fait systématiquement le lit de la gauche dans tous les domaines, culturel, éducation, tous les domaines. Pourquoi les députés français, par exemple, ont voté ce crime contre la nation qu'est l'avortement ? Et ben c'est parce qu'on leur a fait le coup du chat. On leur tartine le derrière avec du poivre rouge et ils se lèchent. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Réfléchissez bien. C'est génial.
Et ils y prennent goût.
Ils finissent par ça. Oui. Ah mais ça, c'est parce que c'est des pervers.
Ils prennent goût à se lécher le cul. Oui.
Je vais essayer d'éviter le mot. Hein. Enfin, je sais pas, Polytechnique, on l'utilise peut-être couramment. Ah ben c'est vrai que dans les équations, on doit l'utiliser aussi. Même les scouts, mon général, j'ai appris, vous savez qu'on dit que les scouts de France maintenant...
Je n'ai jamais rien eu à voir. Enfin si, j'ai eu, mais il y a bien longtemps.
Les scouts de France, dit-on, ne font plus la BA. C'est vrai que dans le sens, c'est la BA. Maintenant, ils font le GPQ. Ah bon. Qui est le geste positif quotidien.
Ah bon.
Parce que la bonne action, ça faisait vraiment misérable, ça faisait vieux truc et tout. Et maintenant, GPQ. T'as fait ton GPQ, c'est beaucoup plus joli, il faut dire. Voilà. Ça fait aussi partie de la manipulation, ça. Et ben, je crois que maintenant, le moment est venu de lire le livre de Pascal Bernardin, c'est la meilleure solution.
Hein. Il est toujours d'actualité, il est plus que jamais.
Voilà, c'est ce que et toujours en vente, en particulier chez Duquesne Diffusion.
Alors, il est paru aux éditions Notre-Dame des Grâces, et vous pourrez vous le procurer d'ailleurs dimanche 14 décembre à Versailles, à partir de 14h, puisque ça ouvre à 14h, au Palais des Congrès, 8-10 rue de la Chancellerie. Place d'Armes, près de la Place d'Armes, de 14 à 18 heures.
Et vous pourrez poser vos questions à Monsieur Bernardin.
Voilà. Et vous verrez la belle couverture de son
livre. Sur une explication plus claire que celle du dictionnaire à propos du terme cognitif, demande cette auditrice.
Disons que ce qui est intéressant, ce sont les enseignements non cognitifs, c'est-à-dire qui touchent au savoir-être et plus généralement aux valeurs, aux attitudes et aux comportements. Donc si vous voulez, on oppose les enseignements académiques tels que nous avons pu les recevoir, à savoir les lettres, l'histoire et les sciences, à tout ce qui donc touche aux valeurs, aux attitudes et aux comportements que l'ONU veut modifier. Donc là, c'est la conférence de Jean-Étienne 1992, dans laquelle on a déclaré de manière, enfin, un grand nombre de pays, à peu près 180, ont décidé qu'il fallait modifier les valeurs, les attitudes et les comportements. Donc les enseignements non cognitifs ont comme objet de modifier ces valeurs, ces attitudes et ces comportements. Et dans la notion d'attitude, il y a une notion émotive. C'est ce qui fait la différence entre une valeur et une attitude, c'est que l'attitude inclut une composante émotive. Donc c'est fondamentalement la modification de cette composante émotive qui est très dangereuse. Bien évidemment, la modification des valeurs est également aussi extrêmement dangereuse.
D'autres questions, ma bonne amie ?
Oh, il y a des questions très pratiques. Que pensez-vous de l'école maternelle ? Car tous les méfaits que vous dénoncez commencent à l'école maternelle.
Oui, enfin, ils commencent même avant, vous savez, ils commencent à la crèche, ils commencent avec les assistantes maternelles.
Les emmerdements commencent à la naissance.
Oui, voilà, voilà.
C'est clair.
Voilà, donc le processus est très bien rodé. Ça commence même avant la naissance avec tous les diagnostics anténataux. Et puis une fois, si on a réussi à naître et à ne pas être avorté, eh bien on est pris par les crèches ou par les assistantes familiales, etc., etc. Et le système est fait de telle manière que finalement tout est contrôlé. Donc c'est bien évidemment, on prend les gens dès le début, le plus tôt possible, et puis on continue le plus tard possible.
Et la modification du vocabulaire est intéressante à noter, parce que c'est avec les mots que l'on modifie les pensées.
Je vous disais tout à l'heure, il n'y a plus de bonne action, il y a le geste positif.
C'est pour ça que vous l'avez noté. Voilà.
Et un auditeur nous dit à propos de ça... je fais partie d'un conseil d'administration dans un lycée. Nous devions faire une motion contre la violence. Le mot « violence » a été gommé pour le remplacer par « incivisme ». Car « violence » a été considéré comme un mot trop fort.
Bah oui, c'est violent, la violence.
Oui, comme un mot trop violent. Mais bien entendu,
puisque... C'est pas le lycée d'Oisil-Sec ?
Je ne sais pas.
Non, mais ça doit être ça. Oui.
Le consensus doit, le mondialisme doit inclure tout le monde. Donc il ne faut pas que les violents se sentent exclus du consensus. Donc ce sont simplement des inciviques. Et l'incivisme, c'est finalement quelque chose de tout à fait mineur.
Respect, camarade. Vous écoutez Radio Courtoisie, le livre journal de Serge de Catch.
Voulez-vous articuler et parler dans le micro?
Ça me gêne de parler de moi. C'est tout.
Ben, oui, il y a beaucoup d'autres choses.
C'est le seul message intéressant.
Non. Dites pas ça, on est en train de se faire injurier parce qu'on passe pas assez de messages.
Ben,
sur TF1, il y a environ 3 jours, on nous a montré le salon des livres pour enfants à Montreuil. C'était des livres d'horreur.
Ah oui, c'était un salon communiste.
Tête de monstre hideux, et sur une pile de livres, un livre apparaissait, « J'ai tué mon prof ». Ben l'avenir voilà. Pour les professeurs.
Alors, tiens, j'en profite, puisque vous parlez des livres. Au lieu d'aller perdre votre temps dans les banlieues rouges, vous pouvez écrire ou téléphoner aux éditions Bulle d'Or. C'est la librairie Ulysse de Bordeaux qui a lancé ça. Vous savez, la librairie Ulysse, c'est un monsieur qui a eu des problèmes parce qu'il n'est pas politiquement correct. Et c'est un type formidable qui a beaucoup d'enfants, qui a une famille catho et tout. C'est vraiment des gens, 12 enfants, voilà. Très courageux, très de chez nous, complètement. Des gens formidables. Et il a publié un catalogue, il a absolument besoin de vivre, cet homme-là, et puis ses enfants aussi, ils sont beaux, ses enfants, Dieu les bénisse. J'en ai vu quelques-uns, là, au cours des universités d'été, c'est du beau monde. Et puis, bien élevé, ça pense bien et tout, c'est parfait. Bon, enfin, parfait, pas de perfection, mais ils sont bien. Donc, les éditions Bulle d'Or, c'est publié un catalogue de livres pour enfants, classé par catégorie d'âge, c'est-à-dire à partir de 8 ans, de 8 à 10 ans, etc. Il y a tous les bons bouquins de la famille, dont naturellement le Saint-Suaire. Alors, vous pouvez commander par correspondance. L'adresse, c'est boîte postale 65, 33034 Bordeaux-Cedex. Et il y a un téléphone, 05 56 93 86 91. Et il y a un fax. qui est 05 56 96 34 44. Si vous avez besoin de livres pour les fêtes, commandez-les si vous pouvez chez Ulysse, ça l'aidera et ce sera une bonne action. Et puis c'est des beaux livres qui sont sélectionnés. Le catalogue est établi par un comité d'experts, c'est-à-dire de mères de famille et d'éducatrices catholiques. Donc vous êtes certain qu'il n'y aura aucune saleté dans la bibliothèque de vos enfants.
De toute façon, lisez avant de donner à vos enfants, c'est plus sûr.
Et Ulysse, puisque vous parlez de livres et que nous approchons des fêtes de Noël, je signalerai quand même à tout le monde que l'on peut acheter dans trois bonnes librairies, L'Ancre, rue de la Sourdière, Duquesne, dont vous avez parlé tout à l'heure, et puis n'oublions pas La Joyeuse Garde, rue Fondary.
Oui, tout à fait. Il doit y en avoir.
Offrez des livres pour Noël, il y en a d'autres, évidemment. Oui.
On a eu beaucoup de messages à propos des Prud'homales, où il y a eu beaucoup de bulletins supprimés, donc on peut penser.
Il faut
que...
systématiquement faire noter sur les cahiers d'émargement vos remarques, et peut-être qu'il sera possible d'obtenir l'annulation de ces élections truquées.
Et puis à propos de la violence, enfin, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à Noisy pour risquer gros. À la sortie du collège Salistas dans le 6e, deux élèves se sont fait racketter, frapper et détrousser il y a 48 heures. Serge de Becquetch a-t-il entendu l'émission de Jean Ferré de lundi où Philippe Junot a parlé de la femme d'un préfet d'Île-de-France qui n'osait plus sortir après une certaine heure?
Oui, bah oui, bien sûr.
Pourriez-vous répéter lentement la phrase écrite sur le CD Le Schumann? C'est une très belle citation à mettre sur des cartes de vœux.
Alors je la répète. Celui qui n'ose s'attaquer à ce qui est mauvais sait mal défendre ce qui est beau.
C'est bien.
Schumann.
Est-ce que vous pouvez...
Non, Schumann, le vrai, pas Maurice, quoi.
Il est vrai aussi, bon.
Oui, enfin moins.
Pourriez-vous nous donner des précisions sur le cas de Monsieur Sereau? Va-t-il être réintégré, puisqu'il a été blanchi?
Je pense que, fort de son blanchissage, il va entreprendre auprès du tribunal administratif les démarches nécessaires.
Que pensez-vous des partiels à Mulhouse et des prises de position de Charles Pasqua sur TF1 à propos du Front?
Je sais pas, parce que je m'en fous, il dit n'importe quoi, il dit tout le contraire de tout. Un jour, on est la même valeur que nous, le lendemain, il décore un communiste, donc je crois qu'il est gâteux, point à la ligne, puis c'est tout. Il est temps qu'il dégage le terrain.
C'est un
pathétique vieillard, bon. Mais l'explication de la défaite de Mulhouse, moi j'ai une explication qui est très très inquiétante. Je sais pas si elle est bonne, mais je la donne, c'est la mienne en tout cas. Je crois que les électeurs de Mulhouse, Frelay avait fait une très bonne campagne, il avait des promesses de vote très très importantes, et en face de lui, il y avait les socialistes et la fausse droite, qui n'ont pas cessé de dire aux électeurs, si vous votez pour le Front National, n'oubliez pas que dans le coin, il y a quand même plus de 30% d'immigrés, c'est une provocation contre les immigrés si vous votez pour un candidat du Front National, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des émeutes. Ça va être beaucoup plus grave que ce que vous connaissez aujourd'hui. Or, aujourd'hui, c'est déjà une cité, c'est un territoire occupé dans lequel l'intifada est permanente, les autobus sont attaqués, etc., etc. Donc, je crois que les gens ont eu peur et ils sont restés chez eux. Il y a 3000 électeurs de moins. L'abstention, elle est de 57%, ce qui est énorme. On n'a jamais vu une abstention pareille. Par conséquent, j'ai l'impression que le système du terrorisme a fonctionné. Les gens se sont dit, c'est vrai, si on vote Frelay, s'il est élu, on court à l'émeute permanente et à la guerre civile. Et ils ont préféré rester chez eux en disant, de toute façon, voter pour Frelay, c'est le risque de guerre civile. Voter pour l'UDF, c'est voter pour un type qui est déjà mis en examen 3 fois, qui a été invalidé pour des raisons bizarres et tout. Et voter pour les socialistes, pour la peine, ils ont déjà la majorité, donc on reste à la maison. Je crois que c'est ça l'explication. Si j'ai raison, c'est assez inquiétant parce que ça prouve que je ne vois pas de solution démocratique. Tiens, il faudrait que je pense à prendre un bain de bouche après avoir employé ce mot-là.
Il me reste 3 minutes. Alors je vous rappelle donc que pour SOS Tout Petit, vous pouvez écrire à 11 rue Tronchet, Paris 8e. Le téléphone, c'est 01 47 83 97 42. La date des ventes de livres catholiques au Palais des Congrès, redites-le-moi donc, c'est quand?
14, le dimanche 14. 14.
Dimanche 14. Pouvez-nous nous donner l'adresse du livre journal?
4 place Franz Liszt, 75-010, Paris.
Et pour les gens qui sont câblés,
les Bléka.
Je leur signale que Jean-Marie Le Pen sera l'invité de Ruth Elkrief vendredi 12 décembre à 19h10 sur LCI, avec une rediffusion le même soir à 23h10.
Et dimanche, il sera l'invité de Michel Cotta à 12h dans l'émission Polémique.
Des merveilles. Depuis,
Polémique Victor, bien
depuis
entendu.
Depuis que Mathilde Cruz réclame quelqu'un du Front National, c'est voilà. Bien.
Je vous signale que les aquarelles originales de Montandon, elles sont superbes, très 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 jolies, sont exposées au paquebot, c'est-à-dire au siège du Front National, 4 rue Vauguyon, 92 210 Saint-Cloud, du 10 au 19 décembre. C'est un joli aquarelliste. C'est très très compliqué l'aquarelle. En plus, son père est un grand médecin, vous en foutez, mais je vous le dis quand même.
Et je vous signale, tiens, voilà des résultats des prud'hommes mâles. Alors, ça c'est celle de Meudon. Mmh. Force ouvrière 28, CFDT 21, CFNT 18 et CGT 17. C'est pas bien, ça.
Je vous signale également, je vais l'inviter dans quelques temps, le peintre Jacques Mignon, qui est un peintre tout à fait particulier parce qu'il fait des peintures d'aviation uniquement. Il dessine, c'est un homme qui dessine des avions, des scènes de combat aérien, etc. C'est de la peinture de haute précision. Donc il propose, à partir du 10 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, si je ne m'abuse, comme disait le docteur, des tirages en souscription d'une œuvre fort belle, qui est le Retour à la base, qui représente le Focke-Wulf 190A6, voilà, sur au-dessus de la base de Lorient, de la rade de Lorient. Mais j'inviterai, parce qu'il est en train de préparer une peinture de l'avion de Klostermann. Alors on les fera venir ensemble pour qu'ils nous racontent un peu comment il a travaillé. Également notre camarade Arnaud Guyot-Janin et Christophe Levallois lancent à partir de vendredi prochain à 20h, vendredi 12 décembre à 20h, au premier étage du café Cluny, au croisement Saint-Germain-Saint-Michel, un café métaphysique. Vous savez que c'est la mode maintenant des cafés philosophiques, et Arnaud a eu l'idée excellente à mon sens de lancer un café métaphysique. Le premier thème de discussion sera rencontres et échanges autour de la quête spirituelle, le loup, symbole initiatique. C'est le Valois vient de publier un très beau livre sur le loup, dont il a parlé dans une émission récente d'Arnaud, Guyot-Janin. Donc ça se passe le 12 décembre à 20h au café Cluny, Carrefour Saint-Germain-Saint-Michel. Également en conférence du professeur Milloz sur l'humanitarisme, ça c'est dans une heure, alors dépêchez-vous, à la salle des agriculteurs, l'humanitarisme de Pierre Milloz. Et puis le 14 décembre, en concurrence avec la signature de Renaissance catholique, à l'espace Montcassin, 9 rue Henri Bouquillon, 75-015 Paris, métro Félix Faure, le président qui avait toujours sa connaissance, Jean-Marie Le Pen présidera, en compagnie de Martine Louis II, le Noël de la Fédération de Paris. Le Père Noël n'est pas une ordure, en l'occurrence. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, qu'il semblerait qu'on soit sur le point de voir libérer Monsieur Poussin, vous savez, qui est le président du CNCA, qui est en prison pour crimes politiques depuis plusieurs mois. Il semblerait qu'il doit être libéré très prochainement, je l'espère pour lui. Je laisse la parole pour le début de l'émission, moitié de l'émission suivante, à mon excellente camarade Cécilia, à son invité. Je vous souhaite une bonne semaine.
Je vais vous couper juste une seconde pour dire, prendre congé des auditeurs et vous remercier de m'avoir invité si longuement dans votre émission, Serge. Dieu vous garde.
Merci
vous.
Beaucoup. Oui, j'espère que Dieu nous garde tous.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech, assisté de Victoria, et par Daniel Amiche, assisté de Marie. Document d'archives du 10 décembre 1997, rediffusé dimanche 25 mars 2012 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Eh bien, bonsoir. Tout d'abord, nous allons donner des nouvelles de Noël Enchanté, notre dernière exposition de la Société Nationale d'Horticulture. Nous avons reçu 5000 visiteurs, dont plus de 4300 payants. Je pense donc que nous allons remettre un chèque assez confortable à la Fondation pour l'Enfance. Je sais que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie sont venus, nous les en remercions. Et la boutique a été entièrement dévalisée, il a fallu pleurer pour garder les phares fadés jusqu'au dernier jour, sinon nous n'avions même plus rien à montrer sur l'estrade. Quelques petites annonces, ce mois-ci ce sont les auditeurs de Normandie qui sont gâtés, puisqu'à l'hôtel de ville de la Épenelle du 16 au 24, de 10h à 12h et de 14h à 18h, il y a une exposition d'art floral qui s'intitule « Les cheminées rencontrent Noël ». Et qu'à Avranches, les vitrines du syndicat d'initiative du 17 au 25 s'intitulent « La semaine du merveilleux », des décors de Noël dits évolutifs qui sont réalisés par le club d'art et bouquet d'Avranches, présidé par notre amie Liliane Labarrière que nos auditeurs connaissent bien. Un petit peu plus loin, à Mougins, une démarche assez sympathique, un concours d'art floral dans le cadre du marché de Noël, qui se tiendra les samedis 13, dimanche 14, et donc ce concours sera visible pendant ces trois jours-là. Une autre petite annonce, une œuvre très sympathique qui s'appelle Les villages de joie, les villages d'enfants SOS de France, pardon, qui édite des cartes de vœux, c'est la saison des vœux, tout le monde le sait, et une série de ces cartes de vœux a évidemment un thème floral. Alors on peut les commander. Village d'enfants SOS de France, 75 443, 75 443, Paris CEDEX 09. Il y a aussi un numéro de téléphone, 01 45 26 71 79. 01 45 26 71 26 71 79, pardon. Alors, rapidement, deux livres pour aider nos chers petits à préparer Noël. Un petit livre qui s'intitule « L'atelier de Noël » de Bernadette Tellet-Luzier chez Casterman, collection Le Petit Atelier Casterman. Avec des matériaux très simples, courant, des pommes de terre, dorées bien sûr, des pâtes sablées ou pâtes à sel, des assiettes en carton. On peut créer des couronnes, des anges, des reines, une crèche. Une montagne d'idées à suivre pour 59 francs. Et puis, pour la fête des plus grands, table fleurie de Chêne Connolly chez Armand Collin. 65 francs, une cinquantaine de tables, du petit déjeuner intime. Vous voulez voir ce livre, Daniel, parce que je vous sais très friand.
Ça ne fait pas que je suis déjà dans le studio, c'est exceptionnellement ce soir, nous avons commencé Pascal.
Vous m'avez laissé commencer comme ça, oui.
Très agréable. Bonsoir, merci Cécilia, oui, encore deux
magnifiques
livres.
Alors, du petit déjeuner intime à la réunion improvisée et au grand soir, sans oublier Noël naturellement. La plupart des compositions font preuve d'une grande poésie, d'une grande spontanéité. Non, il n'est pas parfumé celui-là, non. Il y a un petit chapitre technique et un index qui permet de retrouver tous les éléments de chaque décoration. Alors, Shane Connolly est un jeune fleuriste anglais qui croit à l'influence bénéfique des fleurs dans le quotidien. Je crois que Gérard Richer, qui est mon invité ce soir, va penser la même chose, n'est-ce pas? Parce qu'il est le directeur de la communication des petits frères des pauvres et que la devise quasi officielle maintenant, puisqu'elle figure sur vos cartes de visite, oui. Et cette merveilleuse devise, des fleurs avant le pain.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette devise?
C'est une devise que notre fondateur Armand Marquiset, décédé maintenant depuis 1980, a créée à l'origine de l'association et qui symbolise, qui était en fait la dernière ligne d'une prière qu'il avait créée. Et qui disait « Avons-nous donné des fleurs avant le pain ?» Et voilà, on a trouvé en interne dans l'association, c'est ce qui a beaucoup motivé les, 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 les plus anciens militants et certaines personnes qui sont encore dans l'association chez nous, et on a pensé qu'il était bon de le conserver. Voilà. Alors les fleurs, ça symbolise bien entendu la relation humaine, tout ce qu'on apporte autour des personnes que nous suivons. Voilà, tous les petits plus de la vie. Bien entendu, le pain est important, mais...
Ça ne veut pas dire le superflu avant le pain, mais c'est cette qualité d'accueil.
C'est toute la qualité de la vie, c'est la relation humaine, tout ce qui entoure, tous les petits plus de la vie.
Voilà, notre auditrice de France 2 qui nous envoie ses amitiés, comme très souvent. Une fidèle, vous voyez que nous avons des auditeurs célèbres. Alors, les petits frères des pauvres, tout le monde les connaît ou tout le monde croit les connaître. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont vos axes principaux d'action? Parce que j'aime beaucoup ce mot « action », la fraternité en action au pluriel.
Oui, c'est vrai. Depuis, à l'origine, notre action était à l'adresse, nous venons toujours en aide aux personnes très âgées, au troisième âge, aux vieillards, aux grands vieillards.
Qui sont abandonnés, surtout.
Et c'est vrai, oui, aux personnes abandonnées. Et c'est vrai que Armand Marquisat avait été frappé très très tôt dans les années 30, déjà par la condition déplorable des personnes âgées en général. Bon, les maisons de retraite n'existaient pas, etc. Le manque d'argent, bon, c'est que pas sécurité sociale, les lois sociales sont nées dans les années 60, donc avant les gens étaient très pauvres, les gens le sont un peu moins maintenant, il n'en reste pas moins que les gens souffrent énormément de solitude, et les gens vieillissent, vieux, on les met sur le côté de la route plus tôt, et les gens sont esselés, donc on agit toujours pour les personnes âgées, on va à la rencontre des personnes âgées avec nos bénévoles là où elles se trouvent, mais depuis une quinzaine d'années, on a également développé des actions à la rencontre des personnes sans domicile, dans la rue, dans les rues. Et puis également, troisième axe, des personnes malades dans les soins palliatifs des hôpitaux où nous pénétrons avec nos bénévoles et essayons d'apporter également ce plus que tout le personnel hospitalier ne peut pas apporter parce que ça sort aussi des compétences, etc.
Mais même s'ils le voulaient, ils n'ont pas toujours le temps.
Nous ne sommes pas des blouses blanches et nous sommes en complète.
J'ai vu aussi que vous souciez des personnes en situation précaire. À partir d'une cinquantaine d'années, qui sont quand même encore jeunes, mais qui ont besoin d'un coup de main.
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a cette tranche d'âge entre de 50 à 65 ans qui peut être critique difficile pour un certain nombre de personnes qui ont perdu leur emploi et qui attendent, qui sont en attente de leur retraite, etc. Donc nous, sur Paris par exemple, nous suivons 600 personnes sans domicile entre 50 et 65 ans.
Oui, vous avez plusieurs établissements dans Paris, de logements temporaires, de foyers d'accueil, vous avez un certain nombre de choses.
Nous avons des implantations qui s'appellent des fraternités, bon, c'est notre jargon interne, ce sont nos bureaux, d'où partent les actions coordonnées par nos permanents animateurs.
Et un certain nombre de centres de vacances à travers la France et même en Suisse, je crois, à Rol.
Oui, exactement, une maison de vacances, ce sont des maisons. Qu'on a eu. Notre première maison, c'est la maison de notre fondateur, puisqu'il est né en banlieue parisienne dans le 93, à Montguichet, tout près de Gagny, tout près de Villemomble, bon. Et sa maison natale, il nous l'a léguée, et puis nous organisons là aussi des séjours de vacances, régulièrement, des week-ends, enfin, la maison est occupée quasiment à l'année maintenant.
Et vous fonctionnez essentiellement avec des bénévoles.
Est-ce que vous recrutez des
bénévoles en ce moment?
Nous sommes une association de bénévoles, qu'on aime à dire. Nous travaillons entre guillemets avec plusieurs milliers de bénévoles, voilà. Et alors un bénévole passe, reste. Certains bénévoles, bien entendu, mènent des actions régulières, mais pour Noël. Pour les vacances, par exemple, l'été, on a besoin de plus de bénévoles parce que nos bénévoles réguliers, prennent des vacances, etc. Bon.
Alors, pour Noël,
puis-je me permettre de vous interrompre une seconde, simplement pour rappeler que vous êtes sur Radio Courtoisie, je le dis aux auditeurs qui viendraient tout à coup d'allumer leur autoradio ou leur récepteur chez eux, que vous écoutez, vous avez le bonheur d'écouter Cécile Adem qui reçoit ce soir.
Les petits frères des pauvres.
Les petits frères des pauvres, parce que le studio serait trop petit pour les recevoir tous.
Directeur de la communication des petits frères des pauvres. Et bon, j'avais connu l'an dernier les petits frères des pauvres à travers leur agenda. Nous allons parler de l'agenda 98. l'an dernier, c'était les fleurs, le thème. Nous avions présenté ensemble, je crois. Et nous allons venir...
Comme toujours, ma chère Cécilia.
Oui, de toute façon, je crois que maintenant, c'est un abonnement. Alors, pour Noël, oui. Particulièrement, vous avez des actions. Parce que je vois, vous intitulez ça les instants de bonheur ou les événements de bonheur. Vous
voilà,
attachez
c'est
beaucoup
ça,
d'importance ouais. à ces cérémonies mm-hmm. auprès des personnes isolées. Donc, vous allez les chercher, vous les...
Voilà, regrouper. Alors, des réveillons à domicile, mais également des réveillons dans des maisons de retraite, des réveillons éventuellement dans des hôpitaux, des réveillons également dans nos lieux d'implantation, dans des salles paroissiales, mm-hmm. dans des écoles, des maisons d'association, un peu partout là où on...
Et alors, des réveillons, pas des repas de Noël, c'est ça qui est sympathique.
Ah, des réveillons, le 24
le soir,
soir le soir de Noël, oui. Oui, parce que, regardez, on prépare Noël 2 mois quasiment à l'avance mm-hmm. dans la vie de tous les jours. Donc les gens vivent à ce même rythme et sont frustrés et sont terriblement malheureux ce soir-là si rien ne se passe dans mm-hmm. leur vie. Donc
nous,
on mobilise un maximum de personnes, même les permanents salariés, tout cela, avec des bénévoles réguliers, ceux qui peuvent le faire et des nouveaux bénévoles.
Et justement, donc,
qui vont venir.
On peut encore vous rejoindre.
Bien entendu.
Alors, on vous rejoint par quartier, par région,
alors,
par
un seul numéro de téléphone qui est le siège social qui dispatchera les demandes.
Vous allez le donner,
qui
parce que je suis sûr que vous aurez.
C'est le 01 49 23 13 00 pour Paris, l'Île-de-France.
On va redonner le téléphone. Voilà. 01 oui. 49 23 13 00. 00.
Pour Paris-Île-de-France. Et donc de là, ce sont des actions de proximité, ça selon va. L'origine de l'appel. On peut, sur Paris bien sûr, on a des centres,
sur
mais
Versailles,
également autour
avait,
de Paris, sur Versailles, etc.
Paris.
Bon, dans le 78 et tout ça. Et puis, donc là, le soir de Noël, eh bien, peut-être aller apporter un colis à une dame chez elle qui ne peut plus se déplacer ou ne veut pas se déplacer ce mmh. soir-là. Ou alors, si le bénévole a une voiture, etc., s'il veut
en transporter
dans nos réveillons. Les raccompagner le soir après, bon voilà, des choses comme ça.
Et ce sera peut-être l'occasion d'amitié nouée. Je vous ai raconté tout à l'heure que j'avais rencontré les petits frères des pauvres tout à fait fortuitement il y a une 12-13 ans. J'avais été invitée à l'anniversaire de la maman d'une amie qui fêtait ses 80 ans mmh. et l'un de ses petits-fils était là avec un couple âgé, un couple d'émigrés russes, mais enfin devenu mmh. français depuis 1917 donc. Et c'était ses protégés mmh. aux petits frères des pauvres et ces gens-là étaient là au titre d'invité comme tous les autres. Et ça m'avait beaucoup frappé comme démarche, mmh. de ne pas se contenter d'aller porter un petit colis ou des fleurs, mmh. même un bouquet de fleurs de temps en temps, mais les inclure dans sa propre famille. J'avais trouvé ça. Et vous me disiez que c'était assez fréquent et assez...
Voilà, les personnes, vous savez, bon, en vieillissant... Il y a des personnes qui vieillissent et qui deviennent un peu désorientées. Bon, il y a Alzheimer, on devient malade ou on ne peut plus marcher, on s'assoit dans une chaise roulante. Alors bon, alors chez nous il y a de toutes ces personnes et on essaie de comme dans une recette, n'est-ce mm-hmm. pas, de pas faire un groupe de personnes en chaise roulante ou un groupe de
sûr.
Personnes mobiles, mais on élabore assez judicieusement, je trouve. Des groupes comme ça de personnes âgées, de personnes avec des handicaps, si on peut appeler ça de la vie, différents. Et ça fonctionne très... Et puis, bien sûr, avec des bénévoles de tous âges entre ces personnes, et ça fonctionne très, très bien. C'est le secret de notre savoir-faire et qui fonctionne très bien.
Vous accueillez tout le
monde en bénévole. Absolument.
Absolument tout le monde.
Alors, tout le monde peut être bénévole à partir du moment où on a 18 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien entendu, on va, selon les lieux, s'entretenir... peut-être à 2 reprises au préalable. Il faut remplir un petit dossier pour savoir quand même qui... Parce qu'on ne met pas comme ça, on n'envoie pas chez les gens que nous suivons, n'importe qui. Bon, le premier venu. Bon, on essaie de s'enquérir un peu des motivations des personnes, voir si elles ne se trompent pas, si c'est véritablement cela, bon, etc. Et à partir du moment où ça correspond à une demande, à un besoin, etc., on la met en relation avec nos publics, avec nos personnes que nous suivons.
Voilà. Eh bien, alors là, on a ce petit tract. Là, nous recherchons des bénévoles de Noël pour nos réveillons et déjeuners de Noël les 24 et 25 décembre. Alors, donc,
on peut faire un appel auprès des auditeurs de Radio Courtoisie, parce qu'il s'entourera peut-être qui voudront un petit peu ce soir-là montrer qu'ils appartiennent aussi à la France du cœur, est important. Alors, il suffit d'appeler le numéro 01 49 23 13 00.
Voilà. Et alors, nous allons présenter une autre tradition des petits frères des pauvres depuis une dizaine d'années, c'est l'agenda. Alors, cette année, l'agenda nous propose de passer l'année en bord de mer. Et bon, vous en connaissez le prix? Parce qu'il faut, ah oui, 130 francs. Alors, les plus grands photographes, comme d'habitude, participent bénévolement, je crois.
C'est-à-dire que les droits nous sont,
abandonnés.
Donnés. Voilà. On le fait en partenariat avec un certain nombre de sponsors. Et puis, c'est vrai que depuis maintenant 10 ans, on a réussi à faire un beau produit, qui est un peu, je dirais, en décalage. On n'illustre pas dans l'agenda notre action. Bon. Chaque année, ce sont des sujets différents. Cette année, c'est la mer, 98. L'année dernière, c'était les fleurs, mais il y a eu le mariage, il y a eu les chats, il y a eu pour fêter nos 50 ans. Et en 96, c'était le cinquantenaire de l'association.
Grande cause de l'année.
Et nous étions grande cause nationale. Nous avions le label.
Et vous aviez mis pour fêter l'événement, voici des fleurs. Alors là, c'est pour rêver toute l'année. Vous avez eu les chats, les chiens, les enfants.
Voilà, c'est cela, oui, absolument. Parce qu'on considère que c'est un autre vecteur de communication. Nous ne sommes pas là obligés de toujours parler de notre action par des images. On montre notre action par ailleurs dans d'autres lieux et aussi avec le concours de grands photographes. Bon. Oui, mais pas dans l'agenda.
Alors certaines photos sont fort belles, pleines de poésie, d'autres sont très humoristiques, il y en a très amusantes. Et alors, on peut signaler que parallèlement à la publication de cet agenda, se tient une exposition depuis hier à la FNAC, au Forum des Halles, jusqu'au 7 février, voilà. Avec les photos de l'agenda.
De l'agenda Petit Frère des Pauvres.
Je pense qu'il y en a davantage, non?
Absolument.
Alors, donc, pour commander l'agenda, est-ce qu'on s'adresse à la même
adresse? À la même adresse, au même numéro de téléphone.
Avenue Parmentier, absolument. 75-011, on envoie un chèque de 130 francs.
Exactement.
Et on reçoit l'agenda.
Absolument.
Voilà. Eh bien, Gérard Richet, merci beaucoup. J'espère que...
C'est moi qui vous remercie.
Vos protégés recevront beaucoup de fleurs pour Noël et beaucoup de bouquets de Noël à base de sapins et tout. Moi, il me reste à dire bonsoir aux auditeurs.
À redonner quand même le numéro de téléphone des petits frères des pauvres quand même.
Pour l'appel, pour les...
C'est 01 49 23 13 00. C'est par cœur.
Vous l'avez reconnu, c'est formidable.
Oui, oui,
vous l'avez reconnu.
C'est très rapide, je suis très rapide, moi, pour les numéros de téléphone.
Alors, je dis à l'année prochaine nos auditeurs et je leur souhaite un joyeux Noël, le 14 janvier sans doute, je leur souhaite un joyeux Noël plein d'enfants et de fleurs. Merci d'ailleurs.
Merci Cécilia, merci beaucoup cher monsieur, merci. Bravo pour votre travail et à très bientôt. Eh bien, cette fois-ci, alors un vrai bonsoir aux auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie, après ce magnifique et si tendre intermède que nous a réservé Cécilia Dem. Je crois que c'était bien l'occasion. C'est vrai, une période de l'avance se sent toujours un peu meilleure que dans le reste de l'année. On est plus attendri dans cette attente. Et je trouve que le sujet qu'elle a fait ce soir était absolument remarquable. Vraiment, on la remercie beaucoup de nous avoir parlé de ses petits frères des pauvres et de leur... de tout le travail qu'ils font. Alors, ce soir, eh bien,
Nous allons recevoir 3 invités, donc c'est dire que le temps va leur être mesuré, hélas, mais comme ce sont des personnes extrêmement solides, elles seront en peu de parole, dire l'essentiel du message qu'elles sont venues nous apporter. Personne qui d'ailleurs, sans peau féminin, mais là j'ai que des messieurs ce soir, sauf bien sûr la présence toujours souriante de Marie dans le studio, qui m'assiste imperturbable, semaine après semaine.
Bonsoir monsieur Amiche et oui, bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, monsieur Amiche, vous vous rendez compte, là j'ai repris 15 ans, 15 ans de plus. Alors ce soir nous recevons Yvan Gobry, qui est comme chacun le sait professeur de philosophie, mais aussi écrivain. Il vient nous parler d'un roman pour la jeunesse qui s'appelle 89. Mais ce roman sera plutôt le prétexte. Nous parlons de ce roman parce que c'est un beau cadeau à faire pour les enfants, mais ce sera un petit peu un prétexte à la suite de différentes déconvenues que cet auteur connu a dû supporter récemment. Et puis nous entretiendrons également avec Jean-Sylve de Ventavon, que connaissent également nos éditeurs, qui est journaliste, qui est écrivain, mais que j'ai prié ce soir de venir pour nous parler d'une collection que je trouve épatante. C'est une collection qui s'appelle Nos classiques, et qui est édité par la maison Défi. Alors moi j'appelle ça, ce sont des grands classiques à tout petit prix. Alors on va parler
exactement le qualificatif qui convient.
Voilà, de cette collection. Puis nous recevons alors le Benjamin de cette soirée, Fabien Vieillefosse, Benjamin par l'âge, mais peut-être notre aîné à tous dans le scoutisme, puisqu'il est scout déjà depuis 12 ou 13 ans, alors qu'il en a à peine 20, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, va venir nous parler d'une association qui s'appelle Scoutisme Résurrection, qui est plutôt une espèce de pôle de regroupement de scouts qui se veulent vraiment catholiques. Il va nous parler de cette association, et puis également d'un très joli produit, d'un très joli livre de chants qu'ils ont édité, qui va nous permettre de passer Noël en chantant quelques jolies chansons. Il y a des cantiques d'ailleurs, mais aussi quelques chansons de marche et quelques chansons de la France de toujours. Enfin, jusqu'à ce soir, c'est encore la France de toujours. Peut-être que demain, ce sera plus la France de toujours, mais enfin, prions Dieu que ça reste encore.
Ça sera la France de tout le monde.
Ça sera la France de tout le monde, à défaut d'être la France de toujours. Alors, quelques petites nouvelles quand même, évidemment, je vais sacrifier à cet usage, je vais être très rapide ce soir. Donc, vous l'avez appris déjà dans la première partie animée par notre ami Serge de Bekech, que dimanche prochain, à Versailles, au Palais des Congrès, il y a la grande vente dédicace de livres organisée par nos amis de Renaissance catholique. Alors, les auteurs sont extrêmement nombreux. J'en ai au moins un ce soir, Yvan Gobry, qui sera également à Versailles. Je ne sais pas si notre ami Jean-Sylve y sera.
Non,
pourrait pas y être. Et puis, Fabien Vieillefosse est trop jeune. Ça, c'est quand même réservé pour des personnes. Bon. Alors, c'est l'occasion. Il y a une cinquantaine d'auteurs qui viennent. On vous en a lu tout à l'heure la liste. Mais j'aime bien une liste qui commence par Adeline et qui termine par Volkov, moi, vous comprenez quand même. Oui. Enfin bon, c'est que des amis d'Élise qui sont là, et c'est tout à fait parfait. Donc c'est de 14h à 18h au Palais des Congrès de Versailles, c'est l'occasion de venir acheter des ouvrages pour les offrir, ou si vous avez personne à les offrir, pour vous les offrir. Parce que moi, j'aime beaucoup me faire des cadeaux de livres. Voilà, c'est ce que je préfère me faire. Donc, c'est au Palais des Congrès, 8-10 rue de la Chancellerie. On vous y attend et j'y serai aussi en personne. Donc, ça fait une attraction de plus. C'est quand même intéressant pour un dimanche de me voir en chair et en os. Également, je vous signale donc la prochaine rencontre culturelle de Paul Bilaire. C'est le samedi 13 décembre. Le thème de ce samedi sera Baudelaire entre Joseph de Maistre et le Marquis de Sade. Alors c'est vraiment tout un programme. Le rendez-vous vous est fixé à 14h45 au bar-restaurant. Alors ça s'appelle le bar-restaurant. C'est un bar-restaurant qui n'a pas eu beaucoup d'imagination. Ça s'appelle le bar-restaurant, 21 boulevard de Bonne Nouvelle, au métro Bonne Nouvelle. Là, c'est pratique. Si vous vous souvenez du métro, vous vous souviendrez du nom du boulevard. Et si vous vous souvenez du nom du boulevard, vous vous souviendrez du nom du métro. C'est quand même extrêmement pratique. Et puis, je signale deux publications. J'en parlerai davantage parce qu'on refera peut-être une émission avec ces amis que j'aime beaucoup, des compagnons de Saint-Michel Archange, qui éditent cette magnifique petite... comme revue, qui s'appelle Quis ut Deus, qui est comme Dieu, Michaël, hein, qui est la lettre donc des compagnons de Saint-Michel Archange, c'est le numéro 28 qui vient de paraître, et alors vraiment, là, il y a des choses tout à fait intéressantes, notamment les armes pour combattre le démon, selon sainte Thérèse d'Avila. C'est moi, j'ai une grande dévotion pour les carmélites, parce que les saintes Thérèse, il y en a quand même des bonnes. Hein. Alors tout ça, c'est très intéressant. Et puis la proclamation, bien sûr, de notre chère sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, docteur de l'Église. Un compte-rendu sur les journées mondiales de la jeunesse, avec des extraits choisis des discours du Saint-Père. Vraiment, le catéchisme des anges, la vie de l'association, c'est vraiment épatant, j'aime beaucoup cette revue et je vais l'aimer davantage si j'arrive à vous retrouver l'adresse, parce que je sais que beaucoup de nos auditeurs sont très intéressés par cette revue et il faut donc systématiquement leur donner l'adresse. Je ne vais d'ailleurs pas tarder à la retrouver. Si je la retrouve, je ne la retrouve pas. Alors c'est extraordinaire, je la retrouve pas. Écoutez, chère Marie, est-ce que vous pouvez regarder si des fois vous qui avez meilleure vue que moi, voilà, les compagnons de Saint-Michel Archange, ça y est, 53 rue Charles Gounod. Grand musicien français et catholique. C'est lui qui a écrit l'hymne pontifical. C'est quand même important, ça. Le code postal, c'est 91 120 à Palaiseau. Palaiseau. Et alors, je voulais signaler à l'intention de nos amis qui nous écoutent en Normandie, mais également à l'intention de tous les auditeurs qui peuvent nous capter, l'apparition d'une nouvelle revue, fort intéressante, une très belle revue en couleur bimestrielle qui s'appelle « Le Moyen-Âge ». Bon, je l'ai dédié en particulier à nos auditeurs et amis de Normandie, puisque l'éditeur, les éditions Heimdall ou Heimdall sont normands, puisqu'ils sont à Bayeux. Et c'est une revue thématique sur le Moyen-Âge. Alors vous trouverez absolument toutes sortes de choses sur les châteaux, les objets, les sites, les trésors, les héraldiques, les armures, la numismatique, les meubles, enfin, tous, la cuisine médiévale, tout ce qui intéresse au Moyen-Âge, c'est dans cette revue. Et je trouve que c'est une excellente idée. Je suis absolument sûr qu'il existe un public très intéressé par ces publications thématiques. Enfin, c'est peut-être sur le Grand Siècle, sur les Bourbons, publication que j'ai l'honneur de diriger, enfin, comme directeur de la publication, parce qu'on me demande pas de faire grand-chose. Moyen-Âge, enfin, tout ça, c'est très bien. Alors, vous trouvez ça en kiosque, partout. Il y a quelques endroits où c'est déjà un petit peu épuisé, notamment la gare Saint-Lazare, dont on n'y allait pas. Mais vous le demandez en kiosque, ça s'appelle Moyen-Âge. C'est une revue en couleur qui fait 68 pages, et ça coûte 28 francs. Donc, c'est même pas, je vais vous dire, c'est même pas offert, c'est quasiment donné. Et vous allez vous régaler avec cela. Voilà les petites informations que j'avais à faire. Marie, auriez-vous un petit message à nous donner qui a quelque chose à voir avec... Allez-y. Non, n'hésitez pas, parce que toute hésitation, c'est des secondes perdues.
Pardon. Tout d'abord, un premier message. C'est un auditeur ou une auditrice qui a envoyé un fax pour nous demander de rappeler les références de la petite musique générique qui passe habituellement.
Ah oui, alors donc encore une fois, ce sont les suites orchestrales. Ça existe, j'ai plusieurs éditeurs. C'est les suites, je crois que ça s'appelle suite orchestrale de l'opéra d'Ardanus. C'est-à-dire que Rameau a écrit un opéra qui est très beau qui s'appelle Dardanus, mais cet air-là, vous ne l'avez pas dans Dardanus. Cette marge d'Ardanus ne figure pas dans l'opéra. Ce sont des suites symphoniques ou des suites orchestrales que les musiciens composaient à la suite, tellement leurs opéras avaient eu du succès, ils faisaient des espèces de suites. Voilà, alors ça se trouve chez plusieurs éditeurs, c'est assez, on le trouve assez facilement. Autre question, non? Bon, alors on attend de que vous décryptiez le... Alors, comme c'est la période de Noël, j'ai pensé faire un petit cadeau quand même à nos auditeurs, des petites pauses musicales, avant d'entrer dans le vif des sujets de ce soir. Et nous allons écouter des chants de Noël, des Noëls français, qui vont de 1200 à 1600. En gros, ceux que nous allons entendre sont quand même plutôt de l'époque Renaissance. Alors, nous allons commencer par... un Noël qui date de environ 1490, donc c'est le 15e siècle, la fin du 15e siècle en tous les cas, qui s'appelle Noé. Bon, Noé, évidemment, c'est Noël à l'époque, et qui est un auteur que je ne connais pas du tout, il s'appelle Antoine Brumel, mais vous allez voir que c'est très très joli. Thank you. Voilà, alors c'était des sac-boutes. Un des instruments qu'on trouvait, c'est le sac-bout. Alors ça, c'est très spécial. Je sais pas. Me demandez pas ce que c'est. Me demandez pas l'origine. Mais enfin, c'est très beau. Et c'est une belle mélodie. Alors c'est un air de, après, on va entendre des chants chantés, quoi. Mais là, un petit peu de musique, ça ne faisait pas de mal. Alors, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord notre ami Yvan Gobry, qui nous fait souvent l'amitié de venir à Radio Courtoisie et qui est bien évidemment ici chez lui. Le prétexte pu en être multiple, puisque vous publiez quand même énormément de livres, là, quasiment, c'est quasiment le livre quotidien que vous faites.
Non, un peu plus d'un par mois.
C'est quand même, je trouve, pas mal. Et je voulais vous inviter pour un livre particulier, parce que ça m'a beaucoup plu, que nous sommes dans la période de Noël. C'est donc l'occasion de faire des cadeaux, et il est possible de faire des cadeaux intéressants aux plus jeunes. Et l'ouvrage, le roman que vous avez écrit dans la collection chez Elor, dont on a parlé d'ailleurs dans la première partie de cette émission, ce qui fait que c'est une maison quand même tout à fait intéressante, une maison très proche des scouts aussi, enfin du scoutisme en général. C'est un roman qui s'appelle 89, qui est honoré de la préface, d'une préface de Vladimir Volkov, excusez du peu, et qui est illustré par Alain Dorange. Alors, j'avais souhaité qu'on s'entretienne un petit peu de ce roman. Je dis toujours tout de suite aux éditeurs, c'est un roman excellent à mettre entre toutes les mains, et je voudrais partir de ce roman comme d'un prétexte pour que nous parlions un peu d'autre chose. Vous me direz, c'est curieux, ami, je m'invite pour un roman, il veut que je parle d'autre chose. Je voudrais qu'on parle d'autre chose, parce qu'à propos de 89, c'est-à-dire à propos de la Révolution, vous avez eu, comment dire, un petit désagrément, mais la vie est faite de beaucoup de désagréments, de la part de la directrice, l'animatrice socioculturelle, l'agent d'ambiance, la technicienne de surface, d'une manifestation livresque qui s'appelle très curieusement les 24 heures du livre. N'est-ce pas, ce qui montre que le livre est un peu comme l'automobile, enfin bon, il y en a d'ailleurs beaucoup qui polluent davantage que les automobiles et d'autres par contre qui sont quand même plus écologiques. Les livres d'Yvan Gobry se placent bien sûr dans la seconde catégorie. Et alors ça n'a pas plu à cette dame, parce que vous aviez fait un livre qui s'appelait les martyrs de la Révolution française, la Révolution française et l'Église, je vous demande pardon, la Révolution française et l'Église, vous avez apporté la pièce à conviction, donc vous serez fusillé sévèrement. Et alors ça n'a pas plu à cette dame qui a estimé que, touchée à la Révolution française, et comme je suis d'accord avec elle, comme je partage son opinion, que toucher à la Révolution française, c'est toucher à tout, c'est-à-dire à ce socle fragile, d'une fragilité extrême sur laquelle nous sommes tous en train de virevolter comme les antipodistes ou c'est les jongleurs ou les bacleurs de foire autrefois. Alors ça lui a pas plu à cette dame. Alors c'est la raison pour laquelle je vous ai prié de venir pour nous dire, est-ce que vous persistez dans votre dénonciation des crimes de la Révolution vis-à-vis de l'Église?
Ah ben c'est tout à fait évident, puisque j'ai écrit 5 ouvrages sur la Révolution en 89-90, dont le premier d'ailleurs est chez le paisible éditeur Perrin, qui s'appelle justement « Les martyrs de la Révolution française ». C'était un petit peu le lapsus que vous avez fait tout à l'heure, et qui était un livre d'ailleurs deux fois plus gros que celui-ci, et qui raconte tous les crimes de sang de la Révolution. Alors, évidemment, ce sont de simples récits dans Les Martyrs de la Révolution. Tandis que celui-ci, La Révolution française et l'Église, il s'agit des méfaits beaucoup plus mentaux, des méfaits intellectuels, des méfaits psychologiques de la Révolution, et aussi donc de la préparation animée par la franc-maçonnerie et par une noblesse déchue et par une bourgeoisie cupide qui se sont alliés pour démolir l'Église. J'explique ça dans le premier chapitre. Le second, c'est l'état de l'Église de France en 89, car je veux montrer à tout prix que cette Église était saine. Tout ce qu'on a pu dire sur l'Église de France, qui était bien châtiée d'avoir été si vilaine, si impure, si misérable par le sang, par la guillotine et par les cachots, c'est faux. Quand on voit le haut clergé, jamais nous n'avons eu, même sous Louis XIV, depuis la Renaissance et même depuis le XVe siècle, un haut clergé aussi beau, aussi noble au sens le plus fort du terme, qu'au XVIIIe siècle. D'ailleurs, ça se voit dans le serment constitutionnel. Sur 140 évêques, il y a eu 5 évêques à faire le serment constitutionnel. Ils l'ont prêté non pas de gaieté de cœur, mais par conviction, car c'était perdre toute leur cure et leur sinécure. C'était perdre leurs ouailles en plus, non seulement leur traitement, parfois qui était misérable dans le midi de la France, mais quand on pense que pour Strasbourg, il était de 800 000 livres, c'est, alors qu'un curé en gagnait 1200, vous voyez tout de suite que un évêque de Strasbourg valait quelque chose comme 700 curés, lui tout seul. Donc, chassé, enfui, passer le Rhin, c'est fini. Il n'y a plus de ressources. On loge à la cloche de bois. Et puis, ensuite, laisser les ouailles aux mauvais bergers. C'était terrible aussi. Et ils ont dû peser le pour et le contre, mais comment trahir l'Église et le pape en disant « Nous prêtons serment à un État athée et impie, et nous voulons bien faire une église qui soit une église schismatique et qui s'amuse à d'ailleurs faire élire ses propres prélats par des sortes de conseils généraux actuels. Il y avait des protestants, des juifs, des incroyants qui élisaient les évêques. Oui. Ça, ils ne l'ont pas voulu. Il y a eu quelques misérables, bien sûr, comme Talleyrand Périgord, comme...
La Fonte Savine.
Voilà, le pauvre Savine.
Le mini Brouillet.
Voilà, oui. Et puis, donc, je pense aussi au pauvre, c'est ça, le ménite de Brienne qui était un homme perdu, puisque Louis XVI disait de lui, tout en l'engageant comme principal ministre. Louis XVI n'avait pas dit premier ministre, il ne voulait pas le faire. Cet homme ne croit pas en Dieu, disait-il tristement. Alors pourquoi l'engageait-il? Alors, donc, je ne veux pas faire un résumé approfondi, ce serait plus un résumé de ce livre. Alors ensuite, il y a les lois, n'est-ce pas, toute la persécution légale qui est atroce. Suppression des biens, suppression des ordres religieux, etc. Et puis, ensuite, toute la persécution sanglante, les massacres protégés. On dit, oh, c'est la canaille, ce sont les voyous, ce sont les jeunes, dirait-on maintenant, n'est-ce pas, qui ont massacré les prêtres. Mais protégés par qui, incités par qui? Par Danton et par la Commune de Paris. Ce sont eux qui, en sous-main, ont donné des arbres aux massacreurs.
Ce que vous dites sur l'état de l'Église à la fin du XVIIIe siècle, enfin dans la période, dans la tourmente révolutionnaire, me semble assez juste. Et je voudrais ajouter une chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que quand on regarde la liste des massacrés de septembre, des Carmes notamment, on s'aperçoit qu'elle est extraordinairement représentative du clergé de l'Église de France.
En général. Ça, oui.
Il y a un archevêque, il y a un évêque, il y a des recteurs, il y a des curés, évêques, ça, il y a des prêtres, il y a des frères, il y a des séminaristes, il y a des moines, il y a des simples...
Et un laïc.
Et un laïc. Et c'est vraiment, on a là une image, c'est l'image de l'Église martyre en fin de compte, mais oui. Parfaitement, je veux dire, c'est dans la hiérarchie. Tout le monde...
Et qui avait mérité son martyre. Oui. J'entends par là que ce n'était pas par hasard que d'un seul coup, il se laissait massacrer. Si je prends par exemple Monseigneur Dulot, archevêque d'Arles, c'était un saint. Il a dépensé toute sa fortune personnelle en œuvre pie, c'est-à-dire créer un séminaire. Il n'y en avait pas dans son diocèse, son archidiocèse. Visiter les pauvres à domicile, créer toutes sortes de réseaux de biens, de secours, pour le peuple chrétien, et aussi l'instruction, il prêchait dans les églises, un monseigneur qui ne se contentait pas de s'asseoir...
Mais alors, Yvan Gobry, revenons à ce petit incident qui a émaillé l'actualité il y a quelques mois. Alors, cette dame, par délicatesse, parce que nous sommes sur Radio Courtoisie, cette dame, alors, est-ce que c'est parce qu'elle a honte de ce qu'elle a découvert dans votre livre?
Non, ou est-ce qu'elle est aux ordres.
Elle est aux ordres,
c'est tout. Enfin, c'est... Surtout, il y a des messieurs donc au ministère de la Culture, qui disent, enfin, ou des messieurs et des dames, n'est-ce pas, dans le cabinet de Madame la ministresse, qui disent, attention, ne laissez pas passer un vilain livre, n'est-ce pas, un mauvais livre. Mon livre est un mauvais livre. Enfin, tant mieux, parce que...
ça fait de la pub.
Je n'en parlais plus depuis 89, c'était un livre d'actualité. Alors du coup, j'en signe partout maintenant. Donc ça a été un grand bienfait.
Donc remercions cette dame du Mans. Comme nos auditeurs peuvent nous entendre au Mans, peut-être qu'elle est à l'écoute, si ça se trouve, on ne sait jamais.
Je voudrais ajouter une chose au sujet des prélats que vous avez évoqués tout à l'heure. Même ceux qui avaient eu avant la Révolution une vie dissolue, car il y en a eu, ont... après la Révolution et durant leur persécution, montrer une grandeur d'âme extraordinaire, oui. Et je pense entre autres au cardinal de Rohan,
ah oui,
dont on ne se souvient que comme le cardinal Collier,
oui.
Que comme en prélat qui était plus occupé à aimer les dames et à aimer la chasse qu'à dire la messe, eh bien ce cardinal, lorsque la Révolution est venue et qu'il a dû émigrer, a été outre-Rhin la providence de ses, oui. De ses malheureux compagnons de contre-révolution, si je puis dire.
Exactement, oui, oui. D'ailleurs, de ces prélats qui avaient une vie dissolue, il y en avait 3 ou 4 sur les
Oui, 40. Bien sûr, bien sûr.
Enfin, un auditeur nous dit, attention, il ne faut pas mettre tous les francs-maçons dans le même sac. Regardez la duchesse de Lamballe, la princesse de Lamballe, qui était grande maîtresse d'une loge. Bah oui, ah, c'est oui, vrai, mais enfin, elle l'a été par distraction.
Oui, et puis il ne faut pas...
Au sens propre et au sens figuré.
Il ne faut pas confondre la maçonnerie du XVIIIe siècle, une certaine maçonnerie du XVIIIe siècle, avec celle du XIXe et la nôtre. C'est tout à fait différent.
Oui.
D'ailleurs, il faut également se souvenir que la maçonnerie était condamnée par le pape, a été 2 fois condamnée par le pape au XVIIIe siècle, mais cette volonté papale n'a pas été appliquée en France, car en France, une volonté papale ne pouvait être appliquée que sanctionnée par les parlements. Et les parlements, le parlement plus exactement, n'avait pas sanctionné ce décret-là.
Enfin, c'est bon à savoir. Donc, revenons, si vous voulez bien, Yvan Gobry, parce que nous avons dit tout bien que nous pensions de vos travaux antérieurs, à un travail plus récent, et c'est précisément intéressant que nous parlions de ça, puisque vous reparlez de la Révolution française de 89, et vous en parlez à l'usage des plus jeunes. Alors, dans quel esprit avez-vous rédigé ce roman ?
Eh bien, je me suis aperçu que la jeunesse ne connaissait pas véritablement la Révolution française. Que, ou bien, elle pouvait la connaître par les livres, mais elle est devenue très paresseuse. Les bandes dessinées, la télévision et d'autres distractions l'empêchent de lire des livres sérieux. Et d'autre part, elle pourrait sans doute la connaître par l'enseignement. Mais l'enseignement, vous savez ce qu'il est dans les lycées, et même dans de nombreux collèges catholiques, c'est un enseignement qui a perdu toute sa valeur spirituelle et qui n'est pas du tout critique à l'égard de l'histoire, et surtout de l'histoire contre l'Église.
Vous permettez que je fasse appel à un jeune témoin? C'est pas l'habitude de l'émission, logiquement, chacun parle, mais là, ce soir, comme vous êtes tous extrêmement sympathiques et que tout ça va tourner autour des bonnes idées, on va pas faire une émission franchement bolchevique ce soir, enfin, pour changer. Alors, je voulais demander à Fabien Villefos, qu'est-ce qu'il pensait, lui, de... qui est un jeune scout, qui est un jeune étudiant, de l'enseignement qu'il a reçu sur l'histoire et sur la Révolution française en particulier.
Bah, c'est vrai que l'enseignement scolaire d'une manière générale et principalement celui de l'histoire est biaisé même dans les collèges qui se disent catholiques, et on parle pas de l'enseignement religieux dans ces collèges-là. Et donc c'est vrai que souvent on a besoin justement d'avoir des ouvrages un petit peu plus critiques à l'égard de cette période-là, parce que si on ouvre un livre d'histoire, on va voir les méchants royalistes et les bons républicains, et voilà. Puis ça s'arrêtera là.
Vous arrêtez tous, messieurs, mais enfin, faut quand même vous rendre compte. Nous sommes en République, n'est-ce pas? Faut bien, parce qu'il faut quand même pas rêver. Donc, il est un petit peu normal que la République défende les bases sur lesquelles elle est installée. Vous l'admettez, ça, Fabien?
Ah bah, c'est évident. C'est par des livres comme ça qu'on peut voir. On peut montrer une autre image de ce temps-là, de la Révolution.
Parce que cette brave dame du Mans, là, je descends un peu, hein. Cette brave dame du Mans, elle ne pouvait pas comprendre ça. Peut-être que c'est aussi, peut-être que, question cérébrale, intellectuelle, il y a des gens qui ont des cerveaux...
Je commettais un sacrilège.
Parce que vous touchez à un mythe fondateur, n'est-ce pas? Qui est un mythe fondateur qui s'est drapé ensuite dans des tas de vêtements extrêmement brillants. Mais quand on enlève ces vêtements, qu'est-ce qu'il y a au fond? C'est un cloaque.
Et Robespierre disait au sujet de Louis XVI, si Louis n'est pas coupable, c'est nous qui le sommes.
Évidemment.
Ben, c'est exactement pareil pour la République. Si la République montre l'ancien régime tel qu'il était, c'est-à-dire le moins mauvais des régimes, pas le meilleur, puisque la monarchie est un régime humain, que tout ce qui est humain est imparfait. Mmh. Si la République montre la monarchie telle qu'elle était, c'est-à-dire comme le moins mauvais des régimes, pourquoi la renverser? Et comme elle a été renversée, ceux qui l'ont renversée alors sont des misérables. Et comme ces gens-là sont les héritiers de ces misérables-là, bien entendu, ils ont tout intérêt à jeter un voile pudique sur leur mère fondatrice.
Oui, cette remarque de Robespierre me fait penser aussi à certaines remarques du chef du Sanhédrin au moment du procès de notre Seigneur, n'est-ce pas? Il est préférable qu'un meure.
Bien entendu, c'est dans le droit fil d'ailleurs. Tout cela se tient.
Alors ce roman, on va quand même l'esquisser rapidement, mais faut pas trop l'esquisser parce qu'un roman c'est fait pour être découvert.
Non.
Et je dois dire que ce qu'il faut c'est vous voyez, je pense que les auditeurs qui sont sur Radio Courtoisie qui nous écoutent avec beaucoup de passion comme toujours et qui peuvent nous appeler au 01 46 51 00 85 s'ils ont des messages à nous faire parvenir. Il suffit de les mettre en confiance. Vous voyez, si vous achetez le roman d'Ivan Gobry qui s'appelle 89 avec une préface de Vladimir Volkov publiée aux éditions Elor, vous pouvez être tranquille que les enfants, les jeunes, vos petits-enfants à qui vous le destinez ne vont pas en ressortir comment s'appelaient les mouvements de jeunesse les faucons rouges, non
les gardes rouges.
On va pas en faire franchement des gardes rouges avec ça.
Une remarque pour l'âge de cette lecture, parce que vous dites bien pour la jeunesse, mais l'éditeur dit et pour adultes. Moi, je dirais de 15 à 95 ans.
Voilà.
Ce serait plutôt le genre de...
On peut commencer là. Moi, j'ai quand même un peu feuilleté, tout de même.
Oui.
Je dirais que à partir de 13-14 ans, si l'enfant est dans une famille où quand même on lui parle de un petit peu normalement, comme on doit parler dans les familles aux enfants, où on les instruit, puisque on les éduque plutôt, n'est-ce pas? Parce que c'est aux parents à éduquer les enfants, et quant à l'État, il essaye d'instructionner ce qu'il peut, mais enfin, il peut pas instructionner grand-chose. Quand il se prétend éducateur, c'est le ministère de l'éducation nationale. C'est absolument un non-sens.
On a d'ailleurs supprimé le mot national, qui devient mal sonnant.
Ministère de l'éducation.
Ce qui est national maintenant n'est pas.
Voilà,
n'est pas nôtre.
Voilà, c'est l'éducation. Voilà. Alors donc c'est un roman qu'on peut bien évidemment mettre entre toutes les mains. Moi j'insiste beaucoup parce que c'est un roman qui est bien documenté au plan historique, très très agréable.
C'est ça. J'ai voulu montrer tous les grands faits de l'histoire et insérer des héros imaginaires à peine puisqu'il y a une héroïne à laquelle je donnais un prénom. Mais qui avait un nom, et je ne sais pas ce qu'elle est devenue, c'est la fille du capitaine de Montigny, qui pendant la prise de la Bastille est assaillie par un groupe de scélérats, se voyant entourée, elle ne sait pas quoi faire, son père arrive, pourfend les assaillants, et pendant ce temps-là, elle s'enfuit et dit, l'histoire, elle est sauvée par un grenadier. On ne sait pas du tout ce qu'elle devient, cette pauvre petite. Alors, moi je lui donne 16 ans. C'est beau pour l'âge des lecteurs. Et puis, je l'appelle Alix, parce que c'est le nom de ma femme, tout simplement. Et
c'est charmant.
Voilà. Et alors, ce sera l'héroïne qui est donc, de quelque façon, historique, puisque elle est vraiment prise dans le contexte de la prise de la Bastille. Alors, à côté de ça, évidemment, il y a le jeune héros qui a 2 ans de plus. Et pour montrer que la contre-révolution n'est pas celle seulement des nobles, Alix de Montigny est une fille de noble, de petite noblesse du fond de la Vendée, mais le héros de 18 ans est un garçon, un fils de fermier. C'est donc tout simplement, je ne dirais pas un prolétaire, parce qu'il était bien éduqué, il est allé au collège des oratoriens à Rennes, etc. C'est un petit breton. Mais enfin, il sort d'une souche tout à fait, je dirais, modeste.
Simple.
Et sans particules. Et donc, ces deux héros, la jeune noble et le jeune roturier, se retrouveront à tout moment pour se séparer jusqu'à se rejoindre finalement.
Voilà, parce que il y a une heureuse fin quand même, malgré le
tableau
apocalyptique de cette époque, la fin est pas
en queue de poisson.
Oui,
pour préparer la suite, parce que la suite s'appellera 92.
Voilà.
Il se passera 3 ans. Donc dans le prochain roman, il est écrit, mais je ne sais pas quand l'éditeur le sortira. Elle aura, elle, donc 19 ans et lui 21. Et alors, ce sera terrible en 92, parce que nous assisterons évidemment au massacre de l'abbaye et des Carmes. Et puis, également, alors, faut pas tout de même que j'aille trop loin dans les secrets à répandre. Il y aura, ce sera
enfin, de toute façon, le grand thème de la vous deuxième partie. Vous serez pas réinvité aux prochaines 24 heures du livre, donc voilà. Vous gênez pas, allez-y, franchement.
Le grand thème de la deuxième partie, au nom de la troisième, il y en aura trois, ce sera la délivrance du roi, un essai de délivrance de Louis XVI. Donc tout le complot d'un certain nombre de nobles et de quelques, justement, roturiers de bonne foi qui vont essayer de sortir la famille royale de la tour du Temple.
Alors, ce sera et là, vraiment... ça en connaît la fin de
exactement,
cette troisième
oui.
partie.
Donc, ce sera une fin tragique. Donc, ça exigera 93. Pour la suite du roman, je pense encore faire 93 premier épisode, puis 93 deuxième épisode et 94.
Écoutez, nous attendons le quatrième ou cinquième volume sur la restauration. Enfin, on aura un peu de bonheur. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, on va vivre dans un pays normal. Écoutez.
Oui, je vous ai interrompu. Je ne sais pas
non, vous m'interrompez. C'est moi qui vous interromps.
Vous deviez, je ne sais quoi, vous vouliez peut-être parler de tel ou tel chapitre, tel passage. Non.
Alors, par exemple, bon, un auditeur, alors voilà, ça, c'est une émission très intéressante et c'est un adhérent, un auditeur de la Courtoisie, un homme de tout à fait bonne foi, mais voilà. Ne pensez-vous pas que les inacceptables horreurs de la Révolution, ce qui veut dire qu'il doit y avoir des choses acceptables dans la Révolution, sont la contrepartie des incroyables carences des élites de l'Ancien Régime?
Oui, dans une certaine mesure, il faut dire qu'il y a eu un aveuglement à la veille de la Révolution, d'un certain nombre de membres du haut clergé et de la noblesse, qui n'étaient pas du tout crapuleux. Cet aveuglement, c'était le fait qu'ils ne voyaient pas que le pays courait à l'abîme parce que les deux précédents règnes, c'est le Louis XIV et le Louis XV, avaient complètement asséché le trésor de la France et qu'il n'y avait plus rien dans les caisses et qu'il fallait trouver une solution à ce moment-là. Donc, lorsque Calonne, puis d'ailleurs ensuite Brienne pour l'imiter, hein, on dit, eh bien, il faut un impôt général. Qu'est-ce qui est possédant en France? Les trois ordres. Il y a des gens du tiers qui sont des bourgeois cossus, mais maintenant, la noblesse ne paye plus l'impôt du sang. Il y a des régiments qui sont entièrement payés. Le haut clergé a des revenus considérables. Et puis, il y a des abbayes, bien sûr, qui ont également des serfs encore, pourrait-on dire, des paysans attachés à la glèbe autour qui font suer le burnous. Alors, un impôt général, tout le monde le paiera. Et puis, voilà. Et il y a eu une levée de boucliers de peur de perdre les privilèges. C'est-à-dire que si on avait, à ce moment-là, si en 88-89, la noblesse, la haute noblesse et le haut clergé avaient dit, ben c'est entendu, nous acceptons un impôt immobilier et sur le revenu de nos terres, ils auraient peut-être perdu certains privilèges, mais ils n'auraient pas eu la nuit du 4 août, qui était bien pire, c'est pas pour eux. Ils ont été donc jetés par terre par la nuit du 4 août. En tout cas, s'ils avaient consenti, il y aurait eu une sorte d'impôt général modulé qui n'aurait pas été méchant, qui aurait sauvé les finances de la France.
Je crois qu'il faut, je crois qu'il faut souligner que, et vous avez parfaitement raison, vous l'avez fait, que le trésor public était assez atteint sous le règne de Louis XVI, mais qu'en revanche, le pays, lui, était riche.
Oui, bien sûr, oui, c'est bien sûr. Pour ça qu'il fallait ponctionner les possédants.
Et il faut aussi remarquer que le Parlement a une grande responsabilité par l'obstruction qu'il a exactement toujours formulée à l'égard des volontés royales. Oui. Vous savez, Duval de Préménil a dit... Et en 1792, je crois, qui avait été avec Goillard de Montsabert, l'un des initiateurs de la fronde parlementaire, Despréménil a dit « Je suis un misérable, le roi aurait dû me faire pendre ».
Mais oui. Ah, Louis XVI, évidemment, était d'une faiblesse considérable à tous les moments de son règne, ça qui est dommage.
Alors, un message d'auditeur qu'il faut que je lise, évidemment. Bon, l'auditeur nous dit « La Révolution française est aujourd'hui prétexte à faire la fête, voir les orchestres zoulous sur la place de la Bastille. » Alors, je dirais à cet auditeur que j'ai le plus grand respect pour la grande nation zoulou. c'est vrai, c'est une nation extraordinaire quand même. Bon, et que et là c'est pas vraiment les orchestres zoulous qu'on entend place de la Bastille. Et il dit pour échapper aux fêtes de l'an 2000, ça c'est sûr que on va avoir. Ne pourrait-on pas faire une gigantesque fête de Radio Courtoisie, mes chers auditeurs? Radio Courtoisie, c'est la fête tous les jours, 24 heures sur 24, du lundi matin au dimanche soir, 365 jours par an, et même les années bissextiles, nous émettons un 366e jour.
Voilà. Je voudrais dire que comme vous,
j'espère que cet auditeur est adhérent de Radio Courtoisie.
J'aime bien les Zoulous, mais j'aime bien les Zoulous dans le Zoulouland.
Dans le Zoulouland.
Voilà. Place oui. de la République.
Ça doit écouter Jeanne d'Arc, ça.
C'est moins plaisant.
Très bien. Yvan Gobry, merci beaucoup de toutes ces explications que vous nous avez données. Donc, je ne peux qu'inviter les auditeurs à lire d'abord ce roman 89 qui est très très agréable à lire. C'est un roman d'aventure tout à fait classique, mais dans un contexte historique très particulier, et surtout à le faire lire aux plus jeunes. Je pense à partir de 13-14 ans, pour les enfants normalement évolués, on rentre tout à fait dans cette histoire, et évidemment on prend parti pour nos deux héros qui sont cette jeune
des enfants Alix. Qui ne seraient pas des jeunes par conséquent s'ils sont évolués.
ne seraient pas des jeunes. Merci Yvan Gobry. Avant de passer au sujet suivant, écoutez, on va réécouter un autre petit Noël. Alors cette fois-ci, c'est Chantons Noël, menons joyeuse vie.
Ah, bon.
Beau programme.
Ah oui, allons-y.
Voilà, c'était Chantons Noël, menons joyeuse vie. Alors tout de suite, un petit message qui nous vient de la librairie Saint-Nicolas, qui est située au 6, 2x3 rue du Petit Pont, Paris 5e, qui nous prie de communiquer que le dimanche 14 décembre, toute la journée, la librairie Saint-Nicolas organise sa vente de Noël. Et vous y pourrez avoir des dédicaces de notre ami Yvan Gobry, parce qu'il sera également le dimanche 14 décembre, donc à la librairie Saint-Nicolas, 6, 2x3 rue du Petit Pont, Paris 5e. Marie ?
Oui, alors tout d'abord une question d'un auditeur à laquelle malheureusement nous ne pouvons pas répondre. Un auditeur qui voulait savoir le numéro de téléphone de l'association Les Compagnons de Saint-Michel-Archange. Nous n'avons que l'adresse et nous la répétons. Donc c'est Les Compagnons de Saint-Michel-Archange, 53 rue Charles Gounod, 91 120 Palaiseau. Et enfin, il y a un auditeur qui nous a envoyé le message suivant. Joyeuse fête à Daniel Amiche, dont le saint patron est fêté demain.
Eh oui, il est même fêté ce soir, parce que les vêpres sont chantées. J'allais le faire
bonne
pour
fête,
terminer.
Bonne fête.
Voilà, je suis très content. Merci beaucoup. Bonne J'adore comme fête de bonne fête.
Une rectification. Oui. Vous avez mal interprété l'annonce de Pierre Pacot, c'est que il est libraire de la librairie Saint-Nicolas, mais la vente aura lieu non pas dans sa librairie, mais dans la
salle des catéchismes. La vente aura lieu salle des catéchismes de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Autant pour moi.
Faut pas 3000 personnes se pressent dans la pauvre petite boutique de Pierre Pacot.
Et ça m'étonnait qu'un libraire soit ouvert le dimanche, surtout un libraire catholique quand même. Mais enfin voilà, donc excusez-moi, autant pour moi, quand on veut bien faire, et vous qui trop étreint, mal, je sais plus quoi. Salle des catéchismes de l'église de Saint-Nicolas du Chardonnay. Alors, je me tourne vers notre ami Jean-Cyle de Ventavon, dont vous avez déjà entendu la voix et également les remarques fines et idoines dans ce petit débat que nous avons eu entre nous. Et je l'ai prié de venir ce soir, non pas tant comme l'auteur que nous apprécions beaucoup, mais comme, en quelque sorte, le directeur de collection.
C'est ça, oui.
D'une nouvelle série d'ouvrages dont qu'il avait déjà évoqué sur Radio Courtoisie.
Oui, oui, chez Monsieur de Bekech.
Chez Serge de Bekech, une collection qui s'appelle Nos Classiques et qui est publiée par la maison Défi. Alors là, j'ai sous les yeux trois volumes épatants, vraiment tout à fait épatants. D'abord l'Histoire de France de Jacques Bainville, La Colline inspirée de Maurice Barrès et puis la Jeanne d'Arc du cher Charles Péguy. Alors ces livres ont un avantage particulier, si je puis dire, c'est que, par exemple, si je prends ici l'Histoire de France de Bainville, que tout le monde cherche, c'est un livre qui fait un peu plus de 620 pages. Et c'est vendu 40 francs.
Oui, ben c'est ça, je suis sûr. L'avantage de la collection, nous avons remarqué que si les jeunes, les vrais jeunes et nôtres, si les jeunes lisaient peu, ce n'était pas tant par désintérêt que par le prix extrêmement coûteux que valent aujourd'hui les livres. Alors nous avons décidé de lancer une collection qui, sous un format de poche, présenterait pour les jeunes et pour malheureusement aussi les moins jeunes qui sont
désargentés,
et nous avons décidé de présenter donc sous un format de poche de grands auteurs de chez nous, bien entendu, et les livres valent entre 30 et 40 francs.
C'est vraiment très très peu cher et en plus la couverture est très très belle, c'est très
oui travaillé, alors chaque couverture s'orne et s'ornera d'un portrait de l'auteur. Alors, la préface est de votre serviteur.
Alors, je vais vous demander de travailler d'ailleurs parce que c'est pas tout, on va les vendre les livres. Alors, je vais vous poser trois questions.
Indiscrète, j'espère.
Tout à fait indiscrète, je veux dire.
Sur les seuls auxquels je réponds.
Proposer, dites à nos auditeurs qui nous écoutent donc sur Radio Courtoisie et qui peuvent nous téléphoner au 01 46 51 0085. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore il faut lire Jacques Bainville et son Histoire de France?
Ben écoutez, il faut lire Jacques Bainville et son Histoire de France parce que, comme nous le disions tout à l'heure, l'Histoire de France telle qu'elle est enseignée dans les écoles publiques et hélas trop souvent dans les écoles privées catholiques, cette histoire de France est une histoire de France falsifiée, mensongère, truquée, et que Bainville a été l'un des grands historiens français à s'inscrire en faux contre la vision républicaine est fausse, par conséquent, je le répète, du passé de notre pays. Et c'est une belée, si je puis m'exprimer ainsi, d'air frais que l'on absorbe lorsque l'on lit l'Histoire de France de Bainville.
Mais alors, par exemple, Charles Péguy, lui, c'était un républicain.
C'était un républicain, mais c'était un républicain comme il en existait, Dieu merci. Beaucoup, il faut le reconnaître, jusqu'en 1914, 1920, c'est-à-dire des républicains qui avaient politiquement de mauvaises idées, d'exécrables idées, mais qui étaient des patriotes, qui avaient un grand fond patriotique, et Péguy faisait partie de cela. Vous savez que les officiers morts au combat, statistiquement, sont et les officiers nobles, royalistes et catholiques, et les instituteurs laïcs les hussards noirs de la République.
Oui.
Là, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a eu, dans tous les mondes politiques français, des patriotes. On peut regretter, et on peut regretter qu'aujourd'hui, les gens qui se réfèrent à la République oublient que leurs grands ancêtres montaient à l'assaut au cri de « Vive la nation ».
Oui. Enfin, Pupiguet, il a une grande excuse, c'est qu'il est catholique, quand même.
Oui, bien sûr.
Ça arrange, bien sûr. Les républicains, bien sûr. Quand ils sont catholiques, ça les arrange.
Ah, puis il a été de toute façon, il est toujours resté républicain, mais enfin, un républicain patriote et un républicain qui se méfiait, par exemple à l'époque du dreyfusisme, il n'a pas été, bien entendu, anti-dreyfusard. Mais enfin, il a gardé une espèce de retrait, il a refusé de faire du dreyfusisme une espèce de plateforme d'où l'on pouvait cracher impunément sur l'armée et sur l'Église.
Alors donc, trois volumes sont parus, je rappelle Jacques Mainville, l'histoire de France, Charles Péguy, Jeanne d'Arc, Maurice Barrès, la Corée inspirée, qui sont des grands classiques très connus, mais parfois ils sont connus, mais ils sont pas lus. Alors là, on vous donne l'éditeur vous donne l'occasion de les lire pour très très peu cher. Le Péguy et le Barrès sont à 30 francs et le Bainville est à 40 francs parce qu'il est vraiment, il fait c'est un mastodonte, il fait quand même.
Vous pourrez peut-être rappeler l'adresse.
Alors il faut donner l'adresse des éditions, évidemment.
Parce que en principe, on peut les trouver. Selon la formule consacrée chez tous les bons libraires.
Oui.
Mais enfin.
Peut-être que l'espèce se fait rare.
Il n'est pas négligeable de donner l'adresse des éditions. Ce sont les éditions Défi.
Alors c'est un place Paul Verlaine.
Un place Paul Verlaine.
Qui n'était pas non plus un franc bolchevique.
Qui n'était pas un franc bolchevique.
Non, c'est moins qu'on puisse dire. Paul Verlaine, 92 100 à Boulogne.
Voilà.
Alors je redis, Défi, un place Paul Verlaine, 92 100 Boulogne. Alors on doit trouver ces livres, je pense, dans certaines bonnes librairies comme Duquesne Diffusion, 27.
Oui, oui, Duquesne, bien entendu. Oui.
À la librairie Saint-Nicolas, 6 rue du Petit Pont.
Je pense, je m'occupe pas de la diffusion, mais enfin oui, je pense. Enfin, de toute façon, si on ne les trouve pas, on peut les trouver, bien entendu, aux éditions. Alors les prochains bouquins à paraître. Il y aura Mesure de la France de Drieu La Rochelle, Le Chevalier des Touches de Barbey de Rébilly et La Révolution française de Pierre Gaxot.
Ben, c'est pas mal.
Alors, je crois que, puis alors il y a d'autres, après nous aurons Bonald, Mestre, Taine, puis voilà, enfin tout. Il ne manque pas d'écrivains bien pensants.
Quel bonheur.
Chez nous.
Quel bonheur. Ben écoutez, merci. D'abord, bravo à ces éditions Défi pour cette initiative qu'ils ont prise. Je leur souhaite bien évidemment tous les succès parce que, étant éditeur moi-même, je sais ce que c'est que d'investir dans ce genre de produit. Donc, on leur souhaite le meilleur succès possible. Et bien évidemment, Radio Courtoisie parlera, enfin, en tout cas ici, on parlera autant qu'il est possible de tous ces livres.
Je voudrais aussi profiter de votre aimable invitation pour signaler à vos auditeurs que les éditions nationales publient une collection intitulée Prolégomène. Et cette collection a déjà publié une petite histoire des Camelots du Roi.
Ah oui, je l'ai eu entre les mains.
Et il va y avoir prochainement un livre de Monsieur Vial sur la chevalerie et un livre de votre serviteur qui s'intitulera La Grande Guerre de Vendée. Qui racontera le soulèvement des provinces de l'Ouest de 1793 à 1795.
Alors il faudra que vous êtes déjà invité à venir en parler.
Je vous remercie.
Ça paraîtra à quelle date?
Je pense que vous parlez du mien.
Du vôtre.
Dans le trimestre, le premier trimestre 99.
Bon, alors. 99 ou 98 98.
Oui, 98. Ah, je veux vieillir.
Voilà.
Donc, 98.
Eh ben, vous êtes invité déjà.
Eh bien, merci.
Vous appelez le secrétariat pour prendre rendez-vous avec moi. Et vous êtes déjà invité, il n'y a pas de problème.
Attendez, je vais vous donner peut-être l'adresse.
L'adresse des
éditions nationales. C'est 6 rue Vauguyon, 92 200 à Saint-Cloud.
À Saint-Cloud, et je redonne quand même les coordonnées de la maison d'édition Défi. C'est 1 place Paul Verlaine, 92 100 Boulogne. Merci Jean-Cyle de Ventavon. Bravo.
C'est
pour
moi qui vous remercie.
Votre travail. Un tout petit peu de musique et puis on passe au dernier sujet parce que Fabien est en train d'attendre qu'on parle un petit peu de lui. Alors cette fois-ci, nous allons entendre un autre Noël qui est aussi très beau, enfin que j'apprécie vraiment. C'est disons non à pleine tête. Enfin non, c'est aussi c'est le Noël. Voilà, de cours Noël d'autrefois. Celui-là est du XVIe siècle et de 1582. Henri III régnait pour encore peu d'années et Henri IV allait bientôt lui succéder. Et c'est agréable. Enfin, vous aimez ce genre de musique, Fabien Villefaux?
Ah ben, ça fait partie des
du patrimoine
culturel français.
Voilà, ce que vous appelez la tradition française. On va en reparler un petit peu. Alors, vous êtes un jeune étudiant en école de commerce. Et vous êtes animateur, vous êtes trésorier en fait d'une association qui s'appelle Scoutisme Résurrection. Alors, je ne voudrais pas bien sûr prendre la place de l'excellent journal des scouts, du libre journal des scouts, qui tous les dimanches nous enchante, tous les dimanches matin sur Radio Courtoisie, mais il m'arrive de temps en temps de recevoir aussi des scouts. J'ai le droit aussi de temps en temps de recevoir des scouts. Et je voudrais savoir ce qu'est exactement cette association Scoutisme Résurrection.
Alors le but de cette association, d'abord, c'est de faire la promotion du scoutisme traditionnel catholique. Je dirais, c'est de fédérer au sein des différents mouvements de scoutisme plutôt traditionnel, de fédérer des unités, parce que s'il y a certains mouvements où on...
Parlez bien, Fabien, devant la petite boule jaune là qui vous sert de micro pour qu'on vous entende bien.
S'il y a certains mouvements où il y a uniquement des bonnes troupes, il y a d'autres mouvements où je dirais il y a un peu de tout. Et donc le but de l'association, et ben c'est justement à travers notamment le carnet de chant qu'on a publié l'année dernière au mois de juin, à travers d'autres petits événements qu'on a organisés, un pèlerinage l'été dernier entre Chartres et Longchamp.
Nous en avions parlé.
Dans Royal Hebdo.
Oui, tout à fait. Puis ici même, à cette antenne, je crois qu'on avait dit un petit mot sur votre pèlerinage.
Et donc à travers ces événements, et ben le but c'est de faire se retrouver, je dirais, des unités de différents mouvements, mais qui ont la même sensibilité. Et je dirais, c'est un petit peu de fédérer tout ça. Le carnet de chant en est le premier exemple, puisque je dirais beaucoup d'unités scouts avaient jusqu'à présent des carnets de chant qu'on faisait chaque unité le faisait avec on photocopiait et puis on assemblait très facilement. Et donc là on a fait déjà un travail de recherche de chant et puis ensuite on a contacté plusieurs éditeurs qui nous ont sorti au bout du compte un beau carnet.
Alors oui, c'est un beau, là, on va en parler, mais enfin, vous avez peut-être encore des petites choses à dire sur scoutisme et résurrection, parce que vous êtes scout, tout à l'heure je l'ai dit un petit peu par matière de plaisanterie, mais en fait c'est vrai quoi, vous êtes notre aîné dans le scoutisme, parce que vous êtes déjà dans la bassine depuis combien, 14 ans ou 13 ans?
13 ans, oui, ça fait
13 ans, et vous avez 20 ans, un peu plus de 20 ans, quoi.
Oui.
Donc vous avez commencé tout petit, quoi.
Tout petit, j'étais louveteau, donc entre 7 ans et demi et 12 ans, ensuite scout entre 12 et 16 ans, ensuite j'ai été routier de 16 à 18 et demi, et après, donc depuis maintenant 2 ans, je suis chef de troupe.
C'est CP.
Ça c'est chef de patrouille.
C'est en dessous. Excusez-moi, moi je n'y connais rien du tout, alors j'essaie de m'instruire en même temps que j'espère que ça va apporter plein d'informations à nos auditeurs. Donc vous êtes une espèce de comment est-ce qu'on appelle ça, un inter... Vous n'êtes pas un nouveau mouvement scout.
Non.
Vous êtes une espèce de convergence d'intersection de tous les ensembles du scoutisme qui sont attachés à la tradition catholique, en fait. Mm-hmm. Alors vous en prenez, on va pas citer de nom là ce soir, mais enfin, il y a quand même vous êtes avec de très nombreuses troupes. Il y a beaucoup de gens qui viennent de différentes troupes, c'est ça?
De différentes troupes et de différents mouvements. Mm-hmm. Et donc là, on a deux autres projets pour l'année à venir. Donc on va organiser un nouveau petit pèlerinage au cours de l'été.
Les petits pèlerinages, genre Chartres-Longchamp, ça fait quand même 100 bornes.
Il y avait une centaine de kilomètres. Là, on prépare quelque chose donc qui devrait normalement aboutir, on va décider dans les prochains jours, qui devrait aboutir à Vézelay. Ça va être la dernière semaine du mois de juillet. Et surtout, on prépare un plus grand pèlerinage là qui sera à Rome à la Toussaint prochaine. Alors, à plusieurs occasions, ça sera la 20e année de pontificat du Saint-Père. Ça sera également le 10e anniversaire du motu proprio. Donc à ces deux occasions, eh bien, on viendra montrer au Saint-Père que
occasions d'aller se ressourcer.
Voilà, et on montrera. J'espère qu'on sera très nombreux, qu'il y aura beaucoup d'unités scouts, et puis je sais déjà qu'il y a des parents qui n'hésiteront pas à se joindre
faire
à nous.
Faire le voyage aussi.
Et plus on sera nombreux, justement, pour montrer que, eh bien, il y a, je dirais, les catholiques traditionnels sont très nombreux.
Les catholiques, tout simplement.
Oui, les catholiques, nombreux, tout simplement, sont nombreux, et je pense que ça sera un bon moyen de célébrer cet événement.
C'est bien. Il faut se romaniser. Vous savez, moi, je suis à la fois gallican et romain. Vous savez, oui, parce qu'on peut être gallican tout en étant romain. Hein. Moi, je suis gallican romain. Alors, on va parler rapidement de votre. Alors, vous avez fait un superbe carnet de chants. Enfin, carnet de chants, c'est plus qu'un carnet de chants, parce que ça fait quand même, je sais pas, ça fait plus de 200 pages. Il y a combien de chants là-dedans?
Il y a un peu plus de 300 chants.
C'est ça, 300 chants, quoi. Et alors, ça s'appelle le bout en train. C'est pour mettre le bout en train, c'est celui qui met de l'ambiance généralement, et les chants aident beaucoup à mettre de l'ambiance au veillé scout, au célèbre veillé scout, mais aussi parfois quand on marche, quand on se déplace, et puis entre copains à l'occasion d'un dîner. Bon, c'est toujours agréable de chanter. Je trouve que dans ce pays, on chante de moins en moins. Et les Français, qui étaient réputés comme étant le peuple à la fois le plus spirituel et l'un des plus chanteurs de l'univers, aujourd'hui, ils n'ont absolument plus d'esprit et ils ne chantent plus. Enfin, ça aborde de temps en temps, ça aborde beau rythme, mais ça, on ne chante plus. Alors qu'il y a un répertoire de chansons absolument extraordinaire. Et alors vous avez des chansons, les Cosaques, les Partisans Blancs, qui sont quand même très connus dans l'émission de Serge, mais également des chansons que vous appelez de tradition française. Alors bon, l'Armée de Charette, par exemple, ça c'est les scènes traditions nationales, moi j'aime beaucoup. Le chant de Monsieur Henri, les Bleus sont là, enfin toutes choses qui sont complaintes pour la mort de Henri III, le roi Louis a convoqué, c'est très beau. L'appel de Roland sur les routes. Enfin, vous avez quand même des belles chansons, quand même.
Justement, je crois que le scoutisme aujourd'hui, c'est un des derniers moyens justement de connaître tout ce chant et tout ce patrimoine en fait français, parce que à travers ces chants, on retrouve toutes les époques de l'histoire de France. Et je crois que la chose importante à dire, c'est sans le chant, finalement, les unités scouts ne seraient rien. Le chant, ça va être un moyen de faire vivre le scoutisme. C'est comme ça qu'on rayonne auprès des gens qui nous croisent dans la rue. C'est un moyen, je dirais, à travers le chant, de faire rayonner la France, le scoutisme, notre Seigneur, parce que il y a beaucoup de ces chants qui lui sont consacrés aussi.
Ah, vous les connaissez tous, ces chants-là?
En grande partie.
En grande partie, il y en a un que vous connaissez mieux que les autres.
La Blanche Hermine, par exemple.
Ah, la Blanche Hermine. Alors voilà, elle est belle, celle-là. Vous pouvez nous fredonner comme ça rapidement la Blanche Hermine. Alors c'est une grande première à Radio Courtoisie. Nous avons encore 3 minutes et ce soir, c'est notre cadeau de Noël que nous vous faisons. Fabien Vielfaus, c'est page 98. Fabien Vielfaus va vous interpréter les premières parties de la Blanche Hermine et je vais tâcher de reprendre. Alors allons-y. Oui.
J'ai rencontré ce matin devant la haie de mon champ une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez vos camarades avec vos fusils chargés? Nous tenons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson.
Merci Fabien, merci. Voilà, vous voyez qu'on peut chanter en direct. Je l'avais promis que je le ferais une fois, je l'ai fait.
C'est une magnifique
chanson bretonne d'ailleurs. Ouais, on salue nos auditeurs bretons qui sont sans doute très nombreux. Alors donc, vous avez comme ça des centaines de chants. Alors évidemment beaucoup de chants scouts, le revoir scout, Vas scout de France, le chef de patrouille, enfin tout ça qui sont quand même très très connus, la loi scout, les boy scouts, bon, énormément de très belles chansons, des chansons de tradition française. On ne peut qu'inviter nos auditeurs à se procurer ce petit livret, ce gros livret d'ailleurs. Alors, il est en vente à l'association Scoutisme Résurrection. Je vous donne l'adresse de cette association, c'est 5 et 7 boulevard du Maréchal Leclerc, 5 et 7 boulevard du Maréchal Leclerc, 94 340 Joinville-le-Pont, 94 340 Joinville-le-Pont. Ah, Joinville-le-Pont. Vous connaissez ça? Bon, très bien. Alors, il y a également un téléphone où vous pouvez vous renseigner sur ce livret de chants. C'est 06 06 43 59 99. Alors, soyez gentils, ça coûte 50 francs plus 20 francs de port. Alors, n'hésitez pas à faire plaisir à ces jeunes qui se donnent tellement de mal. 50 francs plus 20 francs, ça fait 70 francs de port, c'est quand même pas très cher. Vous envoyez ça à Association Scoutisme Résurrection, 5, 7, boulevard du Maréchal Leclerc, 94, 340, Joinville-le-Pont. Est-ce qu'il nous reste une petite minute pour un message? Alors, allons-y vite, Marie. Alors, vélos.
Alors, c'est le message d'une auditrice qui nous dit ceci. Comment pourrait-on créer une édition aussi bien orientée que défi, par exemple, mais en cassette pour les non-voyants qui n'ont guère de
bon choix?
Messieurs les éditeurs, pensez à nous qui n'avons que des textes terriblement politiquement corrects.
C'est juste.
Écoutez, merci d'avance.
Moi, je suis prêt à enregistrer, je donne ma voix, je l'ai déjà dit.
Tout à fait.
Il y a le texte de la question d'une auditrice qui nous téléphone pour dire que finalement le code postal des éditions nationales, ça n'est pas Saint-Cloud simplement, c'est Saint-Cloud Sexdexte, donc 92-210. Bon,
on redonnera tous ces messages la semaine prochaine, on est obligé de se quitter. Denis nous fait des signes désespérés, je suis navré. Chers auditeurs, je vous souhaite à tous une bonne soirée, merci à tous ceux qui avaient fait avec moi cette émission. J'en cite devant avant Marie et bien sûr Fabien de Vielfosse et Yvan Gobry. Merci à tous, chers auditeurs, bonne fête à tous les Daniels, à la semaine prochaine et d'ici bonne là, fête. Que Dieu nous garde.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech, assisté de Victoria, et par Daniel Amiche, assisté de Marie. Document d'archives du 10 décembre 1997, rediffusé dimanche 25 mars 2012 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros. ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM, le DK7 pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.